Bonjour à tous et à toutes. Voilà, j'ai 2 heures à vous accorder. C'est un grand plaisir. Je viens dans ce département, ce très beau département, et pour aborder ce sujet autour de la bienveillance, de l'attention aux vulnérabilités, qui est un sujet qui est paradoxalement complexe quand on l'étudie vraiment, et en même temps paradoxalement très simple, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des gestes tout simples qui peuvent changer radicalement le climat d'une école, le climat d'une circonscription ou d'un établissement. Et dire cela, c'est vous dire que... Bon, vous allez avoir le diaporama, je ne sais pas comment on va avec M. Dour, hein, il sera à disposition sur le site, vous aurez donc il y a environ une quarantaine de diapos. Mais bien comprendre que dans ce paradoxe-là, et par rapport au diaporama que je vais vous projeter, il peut y avoir juste parfois une notion, un mot qui peut vous parler ce matin, plus particulièrement, et qui va changer, impulser quelque chose, ou vous orienter vers quelque chose qui était déjà là, mais vous sentez que vous le mettiez en place. Et je m'adresse tout particulièrement notamment aux chefs d'établissement et aux IEN premier degré, parce que, pour avoir vu beaucoup d'établissements là, ces derniers mois, je mesure, avec une acuité qui est parfois même un peu touchante, combien un chef d'établissement ou un IEN peut changer radicalement en quelques mois le climat d'un établissement, d'une circonscription. Et ça, quand on le voit de ses propres yeux, parce qu'on est passé dans l'établissement avant et on savait qu'il y avait un gros problème de climat, et que là, depuis qu'il y a ce nouveau chef, ça a changé en 6 mois, quoi. Et on essaie de comprendre pourquoi. Donc vous allez voir, les clés, on les a en plus. Elles sont très simples en plus, les clés. Et donc ça fait dire quand même que, sur le plan humain, il y a quand même des choses à faire. Et il y a beaucoup de dans les nouveaux chefs, mais même d'anciens chefs qui ont changé, qui ont voulu... les choses changent et ont beaucoup changé ces dernières années, et on a encore de la marge de progrès. Et derrière ça, ce qui est extraordinaire quand même, c'est que, effectivement, les élèves, les équipes, ils trouvent du plaisir, mais aussi ceux qui sont manettes, hein, les chefs d'établissement, les inspecteurs, vont être beaucoup mieux après dans leur métier, parce que c'est une spirale, quoi. Ce qu'on donne nous revient, quoi. Et ça, il faut bien le comprendre. Et moi, je le vis même, on le vit à l'inspection générale aussi, hein. Je veux dire, ce qu'on donne nous revient. Mon propos, donc, organisé en 2 parties, une partie un peu conceptuelle, de constat, d'analyse sur tous ces objets, et une partie qui va être très concrète. Concrète, c'est quoi les pratiques, les gestes, les stratégies. Alors, je sais pas, mon propos est loin d'être exhaustif, il manque quelques éléments d'ailleurs. Hein. J'aurais aimé apporter, je vais essayer d'aborder un petit peu les espaces de parole, parce que je sais que cet après-midi, nous serons au lycée Lachenal, et où il y a eu une expérience un peu unique, pas unique, mais parce que c'est pas le seul établissement qui l'a fait, mais l'initiation d'un projet d'espace de parole il y a quelques années qui a donné de très bons résultats et qui continue à vivre. Donc mon objectif est de vous montrer en quoi, justement, l'attention aux vulnérabilités et la bienveillance constituent vraiment des leviers fondamentaux pour favoriser la réussite, l'émancipation des élèves. Et je vais vous donner des repères, à la fois conceptuels et pratiques, pour montrer en quoi ça permet de rendre l'école beaucoup plus qualitative. Alors d'abord, une diapo, ça sera la seule historique, mais pour vous montrer en quoi on n'est pas du tout sur une mode. C'est pas une mode, c'est pas quelque chose de passager, c'est une évolution de la conscience de l'humanité qui déjà a été en marche depuis des dizaines d'années. Dans le champ de l'éducation, ça s'est amorcé beaucoup avec les pédagogues de l'éducation nouvelle, les pédagogies actives et alternatives, fin du 19e, début du 20e, qui ont été après reprises dans les années 60 par des chercheurs en sciences et l'éducation. Et puis c'est beaucoup depuis les années 80-90, la recherche en sciences cognitives, on le verra tout à l'heure en neurosciences, en pédiatrie, en psychiatrie, mais beaucoup en sciences cognitives, et qui sont des recherches qui ont beaucoup apporté et structuré, parmi lesquelles il faut faire du tri. Il y a une seule chose que je sais à peu près bien faire dans ma vie, c'est faire le tri dans la recherche. Je suis un instituteur comme un certain nombre d'entre vous, un ancien instituteur, et j'ai gardé ça en moi. Et je sais aller chercher quand je lis, ça en classe ça marche, ça ne marche pas. Parce que tous ceux qu'on enseignait, on ne leur raconte pas d'histoire, quoi. Et donc ça, dans la recherche, c'est quelque chose que j'aime bien faire et qu'on peut faire, et ce que je vais vous le montrer tout à l'heure. Et puis, il y a eu tous ces travaux sur différents objets, vous connaissez, le climat scolaire, le décrochage, la santé mentale, la qualité de votre travail, énormément d'objets qui, en fait, étaient déjà un travail sur le bien-être. Mais on n'employait pas la notion de bien-être. La notion de bien-être, on l'emploie depuis environ 2013-2014. Mais elle est vraiment employée que depuis 2 ans, puisque c'est une des trois priorités pour notre système éducatif. Et puis, il y a eu les comparaisons internationales qui ont montré qu'en France, on a beaucoup de problèmes par rapport à ces sujets-là. On pourrait prendre le temps d'analyser, mais qui sont en gros liés à toute notre histoire, à notre attachement à l'érudition, à notre manque d'ouverture, à des aspects un peu plus sensibles, et qui pourtant sont déterminants par rapport aux objectifs que le système éducatif se donne. C'est-à-dire que si on veut, et on le voit dans les lycées, faire réussir un maximum d'élèves qu'on n'avait pas autrefois dans les lycées, et les collèges, un peu moins les collèges, mais les collèges, on avait déjà, depuis le collège unique, pas mal de jeunes en difficulté, on est obligé de passer dans une pédagogie qui soit beaucoup plus attentive aux situations de fragilité, de vulnérabilité. Et puis, il y a eu dans la société beaucoup de choses qui se sont passées, notamment la Convention internationale des droits de l'enfant qui a été signée en 1989. Il y a eu beaucoup de rapports parlementaires. Les médias ont beaucoup porté en épingle, même parfois accentué le regard sur des réalités. Donc la difficulté aussi, c'est d'objectiver c'est quoi la réalité du... Par exemple, si on prend le mal-être actuellement des adolescents, c'est quoi la réalité? C'est pas si simple que ça. Parce qu'il y a ce qu'on nous dit, il y a la réalité, et puis il y a ce que disent les médias, etc. Il y a eu beaucoup les travaux des militants pédagogiques, d'associations notamment de lutte contre la violence éducative ordinaire, et parallèlement aussi, beaucoup, beaucoup de personnel, notamment dans le champ de l'éducation, depuis des quelques décennies, se mettent à lire des ouvrages qui ont trait au sens de la vie, au développement personnel, à la philosophie de vie. Et tout le rayon pédagogie qui existait dans les librairies était remplacé par un rayon qui est le rayon du développement personnel, dans lequel on trouve des choses extrêmement intéressantes, mais on trouve aussi tout et n'importe quoi. Donc, ce n'est pas évident du tout, mais ça impacte considérablement des tas d'objets. Puis, il y a eu un homme, alors quand je vous parlais de la Convention internationale des droits de l'enfant, il y a eu des personnages dans l'histoire de l'éducation, et notamment au niveau international, ce médecin, Janusz Korczak, qui s'occupait dans le ghetto de Varsovie d'enfants avec son épouse. Et en 1942, il apprend que, bien sûr, que les enfants, il sait qu'il y a les camps de concentration, ils sont au courant, et que les enfants vont devoir partir à Treblinka. Et donc, vous voyez, il y a cette sculpture qui est au mémorial de Yad Vashem, qui est une sculpture monumentale, où il entoure les enfants, et il part avec les enfants, en 1942, et avec sa femme. C'est-à-dire qu'en fait, il n'abandonne pas les enfants, il ne les abandonne pas. Et cet homme, Janusz Korczak, va avoir un rôle déterminant parce qu'il va nous aider à comprendre que ce qu'on va conceptualiser bien plus tard, mais cette asymétrie de la relation éducative, qu'entre l'enseignant et l'élève, qu'entre l'éducateur et l'élève, entre le parent et l'élève, entre l'adulte et l'élève, il y a un écart considérable qui est lié à la taille, à la maturité, à l'expérience, au savoir, à énormément de choses, et notamment entre l'enseignant et l'élève. Et il y a quelque chose de particulier que j'ai commencé à conceptualiser dans les années 2016-2017 lorsque j'ai découvert que le point commun à toutes les questions socialement vives, à toutes les problématiques des jeunes, c'est la vulnérabilité passagère ou durable. Et quand j'ai pris conscience de ça et que deux ans après, en 2019, il y a un rapport de l'OCDE qui est paru sur ce sujet, un rapport très puissant qui montre que les politiques publiques ne peuvent être efficaces que si on est attentif à mieux repérer et accompagner les vulnérabilités. Je me suis rendu compte qu'il y avait un objet très fort donc, qui m'a beaucoup fait travailler sur ce sujet. Et donc cette question de la vulnérabilité en classe, la vulnérabilité, on va en reparler, hein, mais on l'a tous vécu, on l'a tous appréhendé dans notre histoire de vie, mais en classe, elle est double, parce qu'il y a souvent une vulnérabilité qui est intrinsèque à ce que vivent les élèves, les jeunes à la maison, et en classe, ils arrivent, être élève, c'est être en situation de vulnérabilité, qui peut être plus ou moins accentuée, on va en reparler tout à l'heure. Je finis sur cet historique pour vous dire que l'éducation nationale, en travaillant sur un certain nombre de politiques publiques, en développant des politiques publiques sur l'inclusion, l'égalité filles-garçons, la lutte contre le... Il y a beaucoup de luttes contre, hein, contre le décrochage, contre la rééducation, contre la violence, contre les addictions, contre le harcèlement, a essayé de me fournir des efforts pour améliorer le bien-être. Puis à un moment donné, quand on s'est mis à parler du bien-être il y a quelques années, c'est plus de la lutte contre, c'est on se mobilise pour. Donc il y a un changement de paradigme là, qui est subtil, mais il y a un changement de paradigme où on se mobilise positivement. Et là, autour du bien-être, il y a beaucoup d'espoir. Alors il y a aussi, vous rencontrez des résistances aussi. Parce qu'il y a une conception du bien-être. Vous savez que le bien-être, c'est un objet économique au départ, hein, avec des enjeux financiers considérables dans les années 60-80, c'est là que ça a commencé à apparaître. Mais pourquoi l'éducation s'en a emparée ? Parce qu'on s'est rendu compte que lorsqu'on va bien, on réussit mieux, et lorsqu'il y a un bon climat, on a commencé à vivre des expériences comme ça dans pas mal d'écoles et d'établissements, et à se rendre compte de cela. Et puis, il y a quand même aussi dans ce parcours, vous le voyez, la fameuse circulaire de rentrée de 2014, je ne sais pas si vous vous en souvenez, où le mot bienveillance va être employé 7 fois, le vocable bienveillant. On va nous parler d'évaluation bienveillante, de discipline bienveillante, d'attention bienveillante, et là, on va se rendre compte que le vocable, il est intéressant, quoi. On va y revenir tout à l'heure. Et ça, c'est Vincent Payon qui écrit là-dessus et qui, justement, avant de partir en 2014, dans la préparation de la circulaire de rentrée, va introduire cette notion-là qui ne va plus jamais nous quitter, même si, on va le voir, elle agace un peu. Elle agace parce qu'elle n'est pas bien comprise. Et donc, je vais y revenir tout à l'heure. Apparaît, bien sûr, le parcours éducatif de santé, les projets NEF, pour lesquels, vous savez qu'il y a à peu près la moitié des projets NEF, hein, plus de 10 000 projets dans le pays, sont en lien avec le bien-être ou les compétences psychosociales. À peu près la moitié. Alors, ou deux, plus ou moins. Ouais. Donc, il y a un enthousiasme qu'il faut honorer, qu'il faut soutenir, et c'est un peu l'objet de mon intervention. Et puis, il va y avoir, bien sûr, le Conseil d'évaluation de l'école qui va, dans ses documents pour permettre l'auto-évaluation des établissements et des écoles, dans l'axe 2, vous vous rappelez, c'est sur le climat scolaire et le climat de bien-être. Et donc ça va, d'une certaine manière, institutionnaliser la notion un peu, l'usage de la notion, mais surtout la référence aux enquêtes locales de climat scolaire. Parce qu'avant, elles n'étaient pas obligatoires. Là, elles vont devenir tacitement obligatoires ou implicitement obligatoires. Et ces fameuses enquêtes de climat scolaire, c'est le point de départ sur lequel on peut réfléchir ensemble. Au lieu de se retrouver entre équipes de direction avec des profs, les uns en face des autres, ou alors qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui va... On met en place une enquête locale de climat scolaire et on regarde ensemble, on travaille dessus, et là, on réfléchit sur comment on peut favoriser le bien-être. Alors, avec la nomination de Gabriel Attal à l'éducation, la dernière rentrée, il va se saisir effectivement du sujet de l'empathie, qui est, à juste titre, la communication empathique. Je regrette qu'on n'utilise pas assez le terme empathie tout seul, là. Si on travaille un peu le sujet, c'est un petit peu dommage de l'employer seul. Il faut mieux parler de communication empathique, d'attention empathique, d'engagement empathique. Mais la communication empathique, c'est quelque chose de très puissant, quoi. C'est une qualité de la communication où on essaie d'imaginer ce que l'autre ressent, ce qu'il pense, et éventuellement, dans la version dure qu'a choisie la DGESCO d'ailleurs, on va jusqu'à reformuler ce que l'autre se représente, pense et ou éventuellement éprouve. Alors, il y a quand même des chiffres qui témoignent d'une réalité qui est contraire à ce que nous disent les enquêtes DEP depuis 2011. Depuis 2011, les enquêtes DEP, c'est 92 à 94% des élèves se sentent bien ou très bien à l'école. Et donc, il n'y a pas de problème. Mais on voit bien que depuis quelques années, on a beaucoup d'autres données qui nous montrent que cette donnée-là n'est pas très juste. Elle n'est pas très juste pour des raisons méthodologiques, parce que la question unidimensionnelle qui a été posée... est une question qui induit un biais de désirabilité qui fait que les élèves vont répondre par désirabilité, que ça va bien. Or, les élèves ont une caractéristique, les jeunes, plus que les adultes, c'est qu'ils sont beaucoup plus dans un déni de leur propre souffrance. C'est très bien démontré par Béatrice Mabillon-Monfils, qui est une chercheuse qui a publié en 2011, qui a mis en place des enquêtes et des entretiens longs avec les élèves. Et ils se sont rendus compte, les chercheurs, qu'en faisant faites l'expérience, vous demandez à un élève si ça va bien, il dit oui, ça va bien. Faites un entretien assez long avec lui, vous allez vous rendre compte que pendant l'entretien, il élabore sa propre souffrance, c'est-à-dire qu'il la conceptualise analytiquement, au fur et à mesure qu'on lui pose des questions de plus en plus précises, et il découvre qu'il ne va pas si bien que ça. Et on a beaucoup, beaucoup d'élèves qui ne vont pas si bien que ça. Et beaucoup de chefs d'établissement, je croise, me disent « j'ai de plus en plus d'élèves en situation de mal-être avec des problématiques de santé mentale ». Ça s'est beaucoup accentué après la crise Covid. Et donc on a des données, beaucoup de données, qui nous montrent qu'il y a quand même une inquiétude, quoi. Voilà, la dernière donnée, par exemple, sur les étudiants, ça vient de Bordeaux, une enquête qui a été faite là, 2 ans après une autre. Ils sont passés en 2 ans de 29% d'étudiants qui sont en mal-être psychologique à 42%. C'est beaucoup, 42% d'élèves qui sont dans des états subdépressifs, voire dépressifs. C'est beaucoup, beaucoup. Et donc, on a 43% des filles de CM1, CM2 déclarent un sentiment de peur à l'école. Sur la peur d'aller à l'école, on a des taux, sur l'angoisse, par exemple, on a des taux très élevés. On a auditionné beaucoup de lycéens ces derniers mois. On s'est rendu compte que la première source de stress des lycéens, les professeurs qui sont présents le savent très bien, c'est le rapport aux évaluations, contrôle continu, notamment à Parcoursup. C'est la première, mais ça passe avant tout le reste. Et donc, ça dit. Alors, c'est doublé d'un autre phénomène, c'est que les élèves créent des groupes WhatsApp, bien sûr, ils sont sur les groupes WhatsApp. Dès qu'il y a une note, alors ils vont sur Pronote, on leur dit, mais combien vous consultez 2 fois par semaine Pronote? Mais monsieur, c'est pas par semaine, c'est par jour. Combien? Ben, c'est entre 5 et 40 fois par jour. Mais vous n'êtes pas représentatif, là, il y a certainement des délégués parmi vous. Non, non, non. Quand on vous posait la même question à nos camarades sans difficulté, c'est encore pire, parce que les élèves en difficulté, ils ont tellement besoin d'être réhabilités qu'ils vont encore plus consulter. Donc on a un énorme problème, qui est d'ailleurs qui a très bien été montré par le rapport de mes collègues sur la réforme du lycée qui est paru en juillet 2023, un rapport de l'inspection générale qui dit qu'il y a énormément de stress au lycée à cause de l'évaluation, et qu'il y a... Il y a au moins 2 sujets sur lesquels en lycée on peut améliorer le bien-être d'emblée, c'est travailler sur le stress et travailler sur la justice. Justice par rapport aux notes et justice par rapport aux punitions-sanctions. Quand il y a plus, vous savez que la justice, c'est le besoin à faire de pause des adolescents. Quand il y a plus de justice et moins de stress, les élèves vont mieux. Autre sujet, la peur dans les toilettes, qui touche plus les filles que les garçons, mais quand même. Les toilettes, alors c'est... Il y a à la fois le manque de propreté, mais aussi la peur, parce que c'est un lieu où il se passe plein de choses, et effectivement, il y a une insécurité. 22% des élèves français déclarent que leurs parents ne jamais parler avec leurs parents ou presque des problèmes qu'ils rencontrent. Juste en dessous, 71% des élèves qui déclarent des problèmes n'en ont parlé à personne, aucun adulte. 71% des élèves qui déclarent des problèmes n'en ont parlé à aucun adulte. Donc on a un énorme problème en France sur le statut de la psychologie. On n'ose pas parler à un adulte de ce qui ne va pas. D'ailleurs, on a eu beaucoup d'entretiens, des élèves nous disent « mais moi, je ne suis pas fou, je ne vais pas avoir de psychologue ». Donc, contrairement à d'autres pays, on a un travail à faire sur le statut de la psychologie. Et je vous disais, des élèves qui sont dans le déni de souffrance, vous faites l'entretien d'une heure ou deux avec eux sur ce sujet-là. À la fin de l'entretien, il y en a un tiers qui minimise encore sa souffrance, qui va revenir sur ce qu'ils ont dit pour dire « mais non, ce n'est pas si grave que ça, finalement ». Certes, les adolescents ont une immense capacité de résilience, mais quand ça va mal, ça va très mal. Ça peut basculer très vite, et on connaît la situation de nombreux adolescents à ce sujet-là, en termes d'absentéisme, et voire de décrochage. 40% des 18-24 ans sont plus déprimés depuis le Covid-19. Vous voyez, c'était 2022. Ben, on peut passer à 42-45, sans doute, d'après les données de l'Université de Bordeaux. 55% sont angoissés à l'idée de ne pas réussir à l'école. L'UNICEF est même montré à 66% chez certaines catégories. L'enquête en classe, qui est pilotée par plusieurs laboratoires de recherche, depuis 2010, on attend la dernière enquête, qui est déjà parue, mais l'analyse n'est pas terminée, sur 2022, et l'analyse n'est pas terminée. On nous dit, voyez, à gauche, sur les difficultés à s'endormir, la nervosité, l'irritabilité, on a une augmentation qui est assez significative. Et surtout, vous voyez en bas, les filles, en bleu clair, sont beaucoup plus touchées que les garçons sur tous les critères. Manque d'énergie, avoir du mal à réfléchir, se sentir découragé, mal dormir, ne pas y arriver à l'école, avoir de la tristesse, ne pas supporter grand-chose, etc. Sur parfois des proportions plus que doubles. Regardez, avoir de la tristesse. Il y a beaucoup de mélancolie, de tristesse parmi les jeunes filles. Alors, il faut tempérer un petit peu ces résultats par le fait que les filles, globalement, et culturellement, en plus, aient l'habitude de parler entre elles de ce qui ne va pas. Donc elles ont tendance à plus élaborer, et elles ont beaucoup plus conscience, elles arrivent à mettre des mots sur ce qui ne va pas beaucoup plus que les garçons, qui pour certains, d'ailleurs, on fait l'expérience quand on fait des entretiens avec des élèves de lycée professionnel, on va avoir des garçons qui n'ont même pas de mots pour qualifier les émotions qui les traversent. Et donc ça atténue un petit peu la tendance des filles à beaucoup plus souffrir, mais regardez quand même en termes de factuel, sur les mises à l'écart à gauche, que ce soit de l'école, au collège ou au lycée, les filles sont beaucoup plus mises à l'écart que les garçons. Le sentiment d'être mis à l'écart. Et le sentiment d'être mis à l'écart, c'est un sentiment de relégation, un sentiment de discrimination. Et quand on parle des insultes sexistes, il y a 5 fois plus, vous voyez, entre filles et garçons au collège, d'insultes sexistes, et 9 fois plus chez les filles que chez les garçons au lycée. Une jeune fille sur 5 se plaint d'insultes sexistes. Donc elles grandissent beaucoup dans un univers déjà hypersexualisé. On voit les images sur les réseaux sociaux, elle est sur TikTok. Enfin, moi, j'y vais pas, je regarde souvent par-dessus l'épaule de ceux qui sont dans le métro, mais on voit les images, quoi. Et y a vraiment un univers d'images et de représentations qui n'a rien à voir avec ce qu'on a connu il y a quelques décennies. Il faut savoir que même il n'y a pas très longtemps, hein, au début du XXe siècle, la France était beaucoup plus rurale. Il y avait beaucoup de fermes où il n'y avait même pas de glace dans les fermes. Il y avait juste un morceau de miroir, mais on ne se voyait pas en entier. Maintenant, c'est la culture, une culture narcissisante de l'image de soi. On se regarde tout le temps, toute la journée, on se photographie. On va dans des lieux pour se photographier devant les monuments, enfin, etc. Tout ce que vous connaissez. Donc, on est dans un univers qui a énormément changé. Alors, ces problématiques comportementales qu'on retrouve surtout plus à partir du cycle 3 et surtout en collège et lycée, bien sûr. Vous les connaissez très bien, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'elles ont un lien entre elles avec le fait que les élèves appartiennent à des milieux défavorisés. C'est-à-dire que plus les élèves sont défavorisés, plus ils vont être touchés par cela. Et ça fait dire une chose, c'est que dans les milieux défavorisés, il se passe des tas de choses qu'il faut absolument bien avoir conscience, en termes notamment de vulnérabilité. Alors, tout n'est pas touché. Si vous regardez les addictions à l'alcoolisation, j'ai encore regardé dans les dernières données que l'on a au niveau international, il n'y a pas plus d'addiction à l'alcoolisation dans les milieux défavorisés que dans les milieux favorisés, où il y a beaucoup, par l'absentéisme des parents qui sont pris par leur activité professionnelle. Pareil sur l'égalité des droits et traitements. Je vous rappelle que la question de l'égalité filles-garçons, c'est surtout c'est deux choses. Hein. C'est l'égalité des droits qui doit être respectée et l'égalité de traitement. C'est pas autre chose que ça, contrairement à ce que bien des parents, notamment, ont cru penser de l'école qui voulait faire de leurs filles des garçons et de leurs garçons des filles. Non, c'est juste respecter. C'est pas assez dit. Moi, ça a été, quand je suis arrivé il y a 10 ans à la Secrétaire générale, le premier rapport sur lequel j'ai travaillé, c'était sur l'égalité filles-garçons et quand j'ai découvert dans les textes interministériels que ça n'avait pas été explicitement dit qu'on travaillait sur l'égalité des droits, l'égalité de traitement, et que ça doit être réaffirmé. Conduite alimentaire, jeux dangereux. Il y a beaucoup d'établissements où on parle d'élèves perturbateurs. Il n'y a pas d'élèves perturbateurs. Il n'y a que des élèves perturbés. Et dire cela, c'est dire quelque chose de très important. C'est dire qu'on entre dans un paradigme qui est celui de prendre en considération le fait que cet élève a une histoire, quoi. Il y a des élèves qui ont des comportements perturbateurs, mais ce ne sont pas des élèves perturbateurs, quoi. Donc je dis ça parce qu'il y a un enfermement, on a une tendance à enfermer les élèves dans des catégories. Et si vous allez dans des établissements où ces fameux établissements dont je vous parlais en introduction, qui ont basculé, ben la bascule, elle repose sur quelques leviers, dont celui-là. Arrêter d'enfermer les élèves dans des catégories et aller à la rencontre des élèves. Aller à la rencontre et chercher à comprendre ce qu'ils vivent. Et aller à la rencontre, ça veut dire discuter avec les élèves. Et ça veut dire une chose sur laquelle je vais revenir, qui est la chose sans doute la plus importante. Peut-être si j'avais un seul message à vous livrer ce matin, ça serait celui-ci. Intéressez-vous personnellement aux élèves. À partir du moment qu'on commence à s'intéresser personnellement aux élèves, ça bascule. Vous découvrez que ces gamins qui, en groupe, sont insupportables, individuellement, sont hyper attachants, Parce que vous rendez compte qu'il y a une histoire, il y a une sensibilité, il y a des émotions, il y a un vécu, des difficultés, des appels à l'aide, des besoins fondamentaux derrière. Il se passe plein de choses. On entre dans l'humain, quoi, de la relation. Et malheureusement, à gérer des grands groupes, à gérer des équipes, des établissements... Et plutôt que de lui parler toujours de ce qui ne va pas, parce que la tendance des enseignants et le défaut de l'éducation nationale, c'est le biais de négativité, se centrer sur ce qui ne va pas, ce qui est normal, c'est lié à la nature même de la profession, etc. Mais d'aller à la rencontre et dire, bon, comment ça va en ce moment là ? Et puis de s'intéresser, c'est quoi tes projets ? C'est quoi tes rêves ? Et puis de lui poser la question fatidique, qu'est-ce que tu fais pour te donner les moyens d'accomplir tes rêves ? Et là, ça engage à un autre sujet qui est la question de la réciprocité. La réciprocité, c'est fondamental. Moi, j'ai mis 30 ans à me rendre compte que quand j'étais enseignant, je m'épuisais parce que je faisais l'effort à la place des élèves. Or, il y a beaucoup d'enseignants qui font l'effort à la place d'eux. Or, la relation pédagogique, comme caractéristique d'efficacité, comme élément d'efficacité, il y a la réciprocité. Quand je contractualise la réciprocité avec les élèves, c'est-à-dire je contractualise, j'en parle parce que la diapo, il n'y en a pas de diapo sur ce sujet, ça me vient à l'esprit parce que c'est quelque chose d'important. Il y a 5 réciprocités dans l'éducation, en tout cas dans la relation éducative à l'école. Il y a 5 réciprocités à contractualiser. Il y a 1, la confiance. Je te demande de me faire confiance, mais moi aussi, il faut que je te fasse confiance. Donc, donne-moi les moyens que je te fasse confiance. On contractualise sur la confiance, sur le respect mutuel. On demande souvent aux élèves qui nous respectent. Il y a combien de profs encore qui ne respectent pas toujours leurs élèves ? On va y revenir tout à l'heure. Troisièmement, l'écoute. Ben, écoutez-moi, mais écoutons-les, les élèves. On va parler des espaces de parole tout à l'heure. Donc, il faut des espaces pour que les élèves parlent, écoutent. Quatrième critère, l'engagement. Pour que tu réussisses, il faut que tu t'engages. Alors moi, je vais tout faire pour, mais il faut que tu t'engages. Il n'y a pas que moi qui vais faire toujours l'effort à ta place. Donc, on contractualise. Alors, contractualiser, c'est qu'on en parle. On se met d'accord. Qu'est-ce que tu vas faire pour t'engager ? Qu'est-ce qui va me montrer que tu t'engages ? Il faut toujours faire le parallèle entre ce que dit l'élève, qu'est-ce qu'il met en acte pour montrer que ce qu'il dit correspond à une réalité. Que fais-tu pour accomplir tes rêves ? Que fais-tu pour montrer que tu t'engages, que tu respectes ? Que fais-tu ? Donc aller sur ce terrain-là, quand on discute individuellement avec eux, on ne va pas tout le faire avec tous les élèves, on va le faire avec les quelques élèves qui posent problème, bien sûr. Et puis le cinquième, c'est le droit à l'erreur. Parce que le droit à l'erreur, ben, c'est un statut un peu particulier, et les élèves, normalement, devraient avoir le droit à l'erreur. L'école a été conçue pour ça. Mais les enseignants aussi ont le droit à l'erreur. Un enseignant qui, de temps en temps, revient sur une évaluation pour laquelle il a été injuste au niveau de l'appréciation, de la notation, c'est un enseignant qui va gagner de l'autorité. Un chef d'établissement qui reçoit un élève qui a vraiment commis des actes qui, effectivement, risquent de l'envoyer au conseil de discipline, mais puis auditionne l'élève, croise les regards, les entretiens, joue sur le contradictoire, etc., puis revient sur ce qu'il a pu dire à l'élève au départ. C'est un chef d'établissement qui montre justement toute sa quelque part son exemplarité. Et ça, c'est essentiel. C'est essentiel de revenir quand on s'est trompé, et que ce soit dans une appréciation, dans une décision. Alors, si on se met à parler donc d'enfants perturbés, ben, on voit bien tous les critères, hein. Ce sont des élèves qui ont des difficultés à se projeter, c'est des élèves qui ont souvent, faut savoir que, je l'ai mis dans une diapo précédente, tous ces problèmes, les questions socialement vues, ce sont des problématiques qui sont des symptômes. L'élève qui est absent, qui est dans le repli, qui est violent, qui est ce sont des symptômes de mal-être. Et ça doit être lu et interprété comme cela. Et les premiers symptômes, c'est souvent les émotions qui ne sont pas forcément lisibles. Après, il faut accéder aux besoins fondamentaux, il faut discuter. Et ce n'est pas forcément simple. Ça demande du temps, de la confiance. Et une posture qui n'est pas celle du sachant, quoi. Et le défaut dans les entretiens qu'on peut amener avec les élèves, c'est qu'on parle trop, les adultes. Il faut ne serait-ce que considérer, apprendre aux enseignants à considérer que écouter un élève, c'est déjà lui apporter énormément. L'écoute est véritablement répond à un besoin qui est considérable chez les jeunes. Alors, on nous parle beaucoup des élèves à besoins éducatifs particuliers depuis une vingtaine d'années déjà. Et notamment, on a un tort en France, comme dans beaucoup de pays, c'est qu'on associe les élèves à besoins éducatifs particuliers au handicap. Oui, tous les élèves en situation de handicap ont des besoins éducatifs particuliers, c'est vrai. Mais tous les élèves à besoins éducatifs particuliers ne sont pas tous handicapés. Là, on en a 470 000 actuellement en France d'élèves en situation de handicap. Vous les voyez, hein, il y a troubles neuronaux, développementaux, troubles organiques, troubles psychologiques, élèves à haut potentiel, élèves allophones, et les enfants issus de familles du voyage. Ça, c'est 470 000 élèves. Et ben, vous en avez 10 fois plus, à peu près entre 4 et 6 millions, on n'arrive pas à quantifier, qui appartiennent à une autre catégorie et qui sont des élèves à besoins éducatifs particuliers. Et ça, on l'oublie. Pourtant, ça a été déjà identifié par l'OCDE, par la DESCO en 2003. Ce sont les fameux enfants dont les familles, momentanément ou durablement, ne sont pas disponibles des fois pendant 15 jours, 3 semaines, pour X raisons, pour s'occuper bien de leur enfant. Cet enfant, il est en situation de vulnérabilité. Il a des besoins éducatifs particuliers pendant 3 semaines, 1 mois, 3 mois, 6 mois. Et ça, c'est beaucoup, c'est des millions d'élèves. On en a, alors, si vous allez, par exemple, dans une classe de CAP en lycée professionnel, c'est en général 90 à 100% des élèves, sauf dans les CAP très profilés, avec des taux de pression très élevés. Mais sinon, c'est... Alors, on a beaucoup d'élèves en situation de handicap, hein, c'est 20, 30, 40% dans les CAP. Si vous allez en éducation prioritaire, vous en avez 80%. Et si vous allez dans une classe ordinaire, vous avez quand même 30 à 40% d'enfants qui vont avoir dans l'année des moments de vulnérabilité. Et ce sont des enfants qui, à un moment donné, vont décrocher, vont se récupérer parce que le parent qui était hospitalisé ou la mère qui était en voyage depuis 3 mois ou la mère qui était malade ou les parents qui étaient en instance de divorce, que sais-je. La situation se stabilise un peu et c'est pas le fait, les élèves sont pas vulnérabilisés par forcément le fait en lui-même. Vous prenez par exemple le problème de l'alcoolisme. C'est pas l'alcoolisme qui veut faire que l'enfant va mal, c'est les conséquences de l'alcoolisme. C'est-à-dire les conséquences de l'alcoolisme, c'est, si c'est une mère qui est alcoolique, c'est une mère dont le comportement quand l'élève rentre le soir est complètement imprévisible. C'est l'imprévisibilité du comportement de la mère qui fait que l'élève est mal. Comme il est son comportement est imprévisible, l'élève est insécure, l'enfant est insécure, il a des questions et il n'est pas bien, quoi. Il est insécure. Or, on va le voir tout à l'heure, l'insécurité, c'est le premier des besoins psychologiques fondamentaux. Donc attention à cette catégorie qui va, du coup, induire quelque chose de fondamental, puisqu'on a des millions d'élèves qui sont en situation de vulnérabilité passagère. Bon, il y a déjà, moi ce que je vous dis là, ce n'est pas nouveau. Hein. Il y a déjà plusieurs centaines d'établissements dans le pays qui ont mis en place des cellules de veille hebdomadaires. Dans le département, il y a plusieurs départements qui ont une cellule de veille au moins tous les 15 jours. Il faut savoir que quand la cellule de veille se réunit une fois par mois, elle a très peu d'efficacité. Ce qui fait la puissance d'une cellule de veille, c'est la réactivité. Ça, on l'a. C'était une des grosses... on a constaté beaucoup de choses ces derniers mois, mais... un facteur, c'est pas une surprise, hein, mais se dire, mais la réactivité, la première des qualités d'une équipe pédagogique, c'est l'engagement collectif. La première des qualités qui fait le bien-être dans un établissement, c'est l'engagement collectif, à être attentif aux élèves. Alors, l'attention à deux choses, tout ce qui est cognitif, les difficultés cognitives, et tout ce qui est relationnel. Deux types de difficultés majeures, cognitives et relationnelles. Et quand l'équipe est engagée à être attentif, à apporter des réponses, à mettre en place, et donc à manifester quoi ? Qu'est-ce qu'elle fait, l'équipe, quand elle est attentive collectivement ? Elle manifeste quoi ? Elle manifeste de la préoccupation partagée. C'est ça qu'elle manifeste. Elle manifeste la philosophie d'une méthode dont vous avez tous entendu parler, qui, grosse surprise de la mission que je pilote nationalement sur ce sujet-là avec une collègue, grosse surprise, on auditionne des experts pendant 4 mois en France, à l'étranger, qui nous disent, et j'ai dans la littérature, que la méthode de précaution partagée n'est efficace qu'à 15%. On passe dans des établissements, puis on commence à voir que c'est tout le contraire. On multiplie les enquêtes, on va dans d'autres établissements, et on voit que la méthode de préoccupation partagée dans certains établissements fonctionne à 100% sur toutes les situations récentes, toutes les situations d'intimidation récentes. Le harcèlement qui dure depuis l'école, qui dure depuis quelques mois, quelques années, ça ne marche pas. Mais la majorité des situations sont des situations récentes. Notamment si on se met à mettre en place une politique de lutte contre le harcèlement, on ne va plus avoir que des situations récentes. Ça marche à 100%. Je ne vous cache pas que ça surprend. C'est l'opposé de ce qu'on a pu lire dans la littérature scientifique. Donc, je ne vous donnerai pas les raisons pour lesquelles, dans la littérature scientifique, les raisons pour lesquelles on a un peu secondarisé la méthode de précaution partagée depuis quelques mois à la DGESCO. Ça, c'est un autre sujet. Mais il y a quand même un sujet sur lequel nous allons nous exprimer. La vulnérabilité, quand on parlait de cette notion-là, c'est parler d'une notion qui est très puissante. Il y a beaucoup de laboratoires de recherche en sociologie qui se sont intéressés au sujet. C'est une des notions qui monte en exponentielle dans la littérature scientifique en sciences humaines, elle est depuis notamment la crise sanitaire. Pourquoi ? Parce que jamais dans l'histoire de l'humanité, les êtres humains, depuis 2020-2021, se sont sentis autant vulnérables. Et avec les problèmes climatiques que nous connaissons, il y a une grande vulnérabilité qui s'inscrit doublement dans la condition humaine. Doublement parce que l'être humain est, comme beaucoup d'êtres vivants, vulnérable, notamment lorsqu'il est jeune ou âgé. Vulnus, c'est la blessure. La vulnérabilité, c'est la potentialité à être blessé, touché ou affecté. Donc, par exemple, nous, les adultes, dès lors qu'on est dans quelque chose, on change, on a une mission nouvelle, on a une fonction nouvelle, un établissement nouveau, un contexte nouveau, on est momentanément vulnérabilisé, c'est-à-dire qu'on est plus fragile. On est vulnérabilisé, on est rendu vulnérable à certains risques. Un risque de commettre des erreurs, de commettre des erreurs d'appréciation, des erreurs de jugement, risque de ne pas prendre des décisions qui prennent la mesure de la complexité de la réalité. Or, une des caractéristiques du monde contemporain, c'est que c'est un monde qui est affecté par la complexité. Tout est devenu un peu complexe. L'éducation est devenue un sujet complexe. Or, ne pas faire l'effort d'entrer, de s'ouvrir à la complexité, c'est à développer des représentations caricaturales, fausses, et déboucher sur des prises de décision erronées. Donc ça dit bien que lorsqu'on est aux décisions, en tant qu'inspecteur UN premier degré, en tant que plus peut-être que pour le second degré, puisqu'on est un peu chef d'établissement, et lorsqu'on est personne de direction, on est aux décisions. Et ne pas prendre la mesure de cette complexité, ça entraîne cela. Et donc la vulnérabilité, c'est un des facteurs de complexité. Parce qu'effectivement, cette vulnérabilité, moi, ce que j'ai énormément développé et soutenu au niveau national depuis 4-5 ans, c'est que la vulnérabilité, elle peut être passagère. On a souvent enfermé en handicap vulnérabilité, inclusion, parce qu'effectivement, il y a un statut, il y a quelque chose qui vous enferme dans une vulnérabilité qui est installée. Mais pour tous ces élèves qui ont une vulnérabilité qui est passagère, il y a quelque chose dont il faut prendre la mesure, qui peut être que contextuel. Et cette vulnérabilité, elle vient se cristalliser sur quelque chose de particulier, sur les besoins fondamentaux. Quand on est vulnérable, même pour nous adultes, on est vulnérable à quel endroit dans notre psyché ? On est vulnérable à l'endroit de plusieurs choses potentiellement. La satisfaction de besoins fondamentaux. Rappelez-vous, vous ne verrez pas en écrit, mais le bien-être, par définition, c'est la satisfaction harmonieuse des besoins fondamentaux. C'est pas que ça, mais c'est beaucoup ça. Le bien-être, c'est la satisfaction harmonieuse des besoins fondamentaux. Donc, quand on est vulnérabilisé, qu'on est mal, on n'est pas dans le bien-être, on est fragilisé à l'endroit de nos besoins fondamentaux. C'est pour ça qu'on est mal. Et pour les enfants, c'est ça aussi, bien sûr. Et ces besoins fondamentaux, ils s'expriment, la condition humaine est faite comme cela, ils s'expriment par les émotions. Ce sont les émotions qui permettent d'exprimer qu'on est heureux, joyeux, satisfaction des besoins fondamentaux, ou qu'on est insécure, qu'on manque de justice, qu'on manque d'écoute, insatisfaction d'un ou plusieurs besoins fondamentaux. Alors, quand j'ai commencé à faire ce travail sur les vulnérabilités, je suis allé voir du côté d'abord des vulnérabilités ordinaires. C'est quoi les vulnérabilités ordinaires? Vous les avez, je ne les lisais pas toutes, il faut aller regarder. On en a, c'est celles qu'on a, nous avons plus ou moins tous vécues, peut-être pas toutes, mais on en a vécu pas mal. Donc c'est toutes les petites violences physiques, les fragilités physiques, les conflits familiaux, les violences éducatives ordinaires qui peuvent être ponctuelles, de la négligence éducative ou affective. En classe, ça peut être des jugements de valeur, ça peut être du stress, tout ça, c'est des vulnérabilités ordinaires. Et puis, vous en avez aussi en dehors de la classe, en dehors de l'école. Et puis, on en vit aussi depuis quelques années sur le plan numérique. Il y a des nouvelles vulnérabilités. En fait, là, c'est plus les risques que vous voyez qui font l'objet de vulnérabilités. Et puis, vous avez aussi des risques climatiques, des risques sociétaux, résidentiels. Et puis, à droite, on en parle de plus en plus aussi depuis quelques années, vous avez des situations qui présentent des risques de mal-être, de troubles de santé mentale, et dont, qui peuvent placer un jeune ou un adulte dans une grande vulnérabilité. Parfois, un seul de ces faits peut briser une vie. On le voit, les agressions sexuelles, dont on parle beaucoup, et qui vont permettre quand même de beaucoup plus moraliser la vie publique et la vie intrafamiliale, en font partie. Le harcèlement à l'école, dont on parle depuis quelques années, mais qui existe depuis que l'école existe. Vous avez comme cela des situations qui sont des situations qui peuvent être, pour certains élèves, pour certains jeunes, liées à certains contextes, liées à leur histoire, des situations qui vont considérablement les vulnérabiliser. Alors que vous comprenez bien qu'un jeune qui vit des choses comme ça, soit à l'école ou chez lui, et qui en plus arrive à l'école dans cette situation de vulnérabilité que la situation d'élève, il a la double peine, quoi. Il a la double peine. S'il se met en plus à être en échec scolaire, c'est la triple peine. Si ensuite il commence à être dans la délinquance, c'est quadruple peine. S'il fait de la prison, c'est cinq peines. C'est pour ça que quand tout le travail sur la justice restaurative qui a été initié aux États-Unis, sur la compréhension de l'histoire des prisonniers, les travaux de Melanie Klein, que certains d'entre vous connaissent bien, sur l'histoire de vie des grands dictateurs ou des grands créateurs, c'est la même histoire de vie globalement, sauf que certains ont transcendé leur problématique dans l'enfance et en ont fait un objet de création, puis pour d'autres, ils deviennent des dictateurs. Bon, tous ces travaux-là ont été confirmés par tout cela, et nous fait dire que la vulnérabilité, si on la prend en considération très jeune, eh bien, ça économise énormément de milliards à un pays. Les Américains considèrent qu'un milliard qu'on évalue dans la prévention de la vulnérabilité et du bien-être en rapporte 13. Bon, c'est des évaluations qui valent ce qu'elles valent, mais on sait très bien, par exemple, en France, qui est le premier pays où on consomme des psychotropes, ce que peut coûter la vulnérabilité. Alors, les facteurs de mal-être, on les connaît, la recherche scientifique est tout à fait consensuelle là-dessus. On sait qu'un jeune, les facteurs sont des facteurs externes à l'école et des facteurs internes. Et notamment, dans les facteurs externes à l'école, il y a d'abord des facteurs individuels. Et vous avez là une notion qui je trouve très intéressante et que je vous invite à explorer un peu, c'est la notion d'adversité chronique. Vous avez dans vos élèves des jeunes qui vivent dans des familles où ils sont en adversité chronique. Ils sont constamment obligés de se défendre de ce qu'ils sont identitairement, de ce qu'ils font, de ce qu'ils pensent. Ils sont constamment dans l'adversité. Et ça, au niveau du développement du cerveau, on a beaucoup de données depuis le début des années, fin des années 90, début des années 2000, qui montrent l'impact sur la structuration du cerveau. Et donc vous avez des jeunes, il faut écouter, lire les travaux en anthropologie sur la radicalisation. Vous avez des jeunes qui grandissent dans des univers de violence constants dans leur famille, dans leur environnement de quartier, et qui sont dans l'adversité permanente, et pour lesquels le rapport aux autres est un rapport qui est complètement à l'opposé de l'apprentissage du respect. Enfin, c'est très très difficile pour eux. Et on va voir que c'est un problème qui est éducatif, qui est psychologique, mais avant tout physiologique, on va le voir. C'est surtout un problème physiologique, en fait. Des facteurs familiaux, dont un qui est majeur, qui est la violence éducative ordinaire, sur lequel je vais revenir, et un autre facteur qui est à l'école. Alors, il y a l'indifférence des adultes, qui est un facteur très aggravant, et beaucoup la violence pédagogique ordinaire, la VPO. Vous avez encore, ça a beaucoup diminué. L'école a énormément progressé en quelques décennies. Il n'y a plus de violence physique, pédagogique physique, mais il y a de la violence encore psychologique, on va y revenir. Regardez, par exemple, là, je vais demander des inspecteurs, des enseignants en formation de me faire une liste, alors, il y en a 80, je vous en avais mis quelques-unes, des violences pédagogiques ordinaires. Le devoir prégnant d'être performant, la catégorisation des élèves, les discriminations raciales, les comparaisons des quand on rend les évaluations, la compétition instituée dans la classe, le déni des émotions des élèves. Lorsqu'un élève a des larmes et quand surtout, ben, voilà, on l'interdit de manifester ses émotions. Alors là, vous voyez en rouge la liste des problématiques qu'on observe chez les enfants, chez les adolescents. Principalement dans deux champs, les relations sociales et les apprentissages scolaires. Ils ont du mal à se respecter entre eux, à communiquer de manière positive, à gérer leur stress, à appréhender les situations à risque. Ils ont du mal à résoudre les problèmes relationnels et d'apprentissage, deux catégories. Donc, bien sûr qu'ils ont des difficultés cognitives dans différentes disciplines, mais ce que vous voyez là, qui touche quasiment tous les jeunes, plus ou moins, ce ne sont pas des difficultés disciplinaires et académiques. Ce sont des difficultés psychosociales ou socio-émotionnelles. Et ça, on le sait depuis les années 70, le rapport de Jacques Delors en 1996, sur, d'une certaine manière, sur l'importance de développer les savoir-être. C'est un rapport qui a été le point de départ de cette conscience-là en Europe. Et puis, bon, il y a eu la charte d'Ottawa en 86, la nomenclature des compétences psychosociales publiée par l'OMS en 1993. Et donc, vous voyez que ce sont des compétences, à droite, qui ne sont pas académiques, mais qui sont psychosociales, et qui sont déterminantes, elles ont l'impact dans trois domaines. La réussite scolaire, ces compétences-là. Alors, on a plein de méta-analyses au niveau international, parce qu'il y a des pays, les pays nordiques, les pays anglo-saxons, qui développent les compétences psychosociales depuis une vingtaine d'années. Elles sont déterminantes pour réussir scolairement, pour favoriser la qualité des relations et pour la santé mentale et physique, pour une bonne santé mentale. Tous ici, nous sommes des personnes, tous les personnels de l'éducation nationale, et notamment les personnels d'encadrement, mais même les personnels enseignants, ont un haut niveau de compétences psychosociales, globalement. Ça, on ne peut pas faire sans. Si on n'a pas un bon niveau de compétences psychosociales, on n'arrive pas à maintenir un état de bien-être professionnel. Et donc, c'est d'ailleurs la définition de l'OMS du 1993. Les compétences psychosociales permettent de maintenir un état de bien-être. Je vais y revenir tout à l'heure. À droite, maintenant, apparaissent les leviers qui permettent de renforcer ces compétences-là. On les connaît, la littérature, on a vraiment beaucoup de données là-dessus. C'est d'abord toutes les interventions éducatives. Donc, c'est ce qui se passe dans les familles. Les familles où on parle avec les enfants, où on anticipe les risques, et la majorité d'entre nous, c'est ce que nous avons connu, au moins avec l'un de nos parents. Ce sont des familles où on construit des compétences psychosociales parce que les parents discutent avec leurs enfants, ils anticipent les situations à risque, les situations contraignantes, ils anticipent toutes les situations d'incertitude. À défaut de les anticiper, ils analysent avec leurs enfants, bon, comment ça s'est passé à l'école aujourd'hui ? Puis on discute. Et comme on se parle de ce qui a été difficile, il y a un développement de compétences psychosociales qui est lié à la réflexivité posée sur, sur ce qui est vécu. Dès lors que l'on plaque de la réflexivité sur du vécu, ou que l'on amène un jeune à réfléchir sur son vécu, on l'aide à construire ses compétences psychosociales. Donc ça, c'est ce qu'on a tous plus ou moins connu, soit avec nos parents, soit avec un grand frère, une grande sœur, soit avec des camarades aussi. Et puis on s'est rendu compte qu'on pouvait, pour les enfants qui manquent de compétences psychosociales, dans des enseignements, plus particulièrement les sciences de la vie de la Terre, le EMC, le PS, l'éducation média de l'information et le français, sont des disciplines qui se prêtent énormément aux compétences psychosociales, notamment le français, la littérature. Quand un jeune lit beaucoup de romans, il va développer une conscience des compétences psychosociales des personnages et il va les intégrer plus ou moins, il va plus ou moins les intérioriser. Un jeune qui regarde, une jeune fille qui regarde beaucoup de séries, je dis les jeunes filles parce qu'elles regardent beaucoup plus de séries que les garçons, on ne va pas me le donner là-dessus, elles intériorisent beaucoup de compétences psychosociales par le fait qu'elles regardent des séries. Et en fait, si vous analysez le contenu des séries entre en 20 ans, comment ça a évolué, maintenant, on a vraiment, notamment dans les séries américaines, un très haut niveau de compétences psychosociales dans la psychologie américaine. C'est assez... Bon, pas que la psychologie américaine, on va retrouver ça aussi dans beaucoup de domaines. Et donc, parfois, vous avez donc dans une famille une jeune fille qui va regarder des séries régulièrement, puis son frère, lui, ben, il tue 1000 personnes tous les soirs sur son jeu vidéo. Les compétences psychosociales, ce n'est pas les mêmes. Il en faut. Hein. C'est les compétences psychosociales qu'utilisent, par exemple, les gens qui font de la manipulation. On sait que l'empathie, par exemple, c'est utilisé par les pervers narcissiques pour manipuler. Donc, j'exagère un peu, mais il y a quand même, pour pouvoir exercer de la violence, il faut des compétences psychosociales pour pouvoir réussir à être performant. Donc c'est tout le comble de cela, mais c'est une réalité. Des programmes d'activités séquencées avec pédagogie active et expérientielle. On s'est rendu compte, en lisant la littérature, qu'il existe des techniques pédagogiques pour accélérer le développement des compétences psychosociales. Et ces techniques, on les connaît très bien, c'est toutes les pratiques expérientielles. Donc c'est les jeux de rôle, le jeu des trois figures, jusqu'en sixième, beaucoup pour l'école élémentaire. Le théâtre forum, au cycle 3, au collège ou au lycée. Ça, c'est les deux leviers très importants. L'analyse des situations vécues, ce que je vous disais, ce qu'on fait dans les familles, on peut le faire à l'école. On demande aux élèves de discuter sur comment ils se comportent par rapport à un camarade qui leur propose de fumer de l'herbe, ou je ne sais pas, ou toutes les situations à risque. Donc on analyse les situations à risque, et ça, c'est... Et on fait, dans le théâtre forum, on fait jouer des scénettes par les élèves, on les fait changer de rôle et on fait l'alternance entre jeu de rôle et analyse de rôle vécu. Et c'est ça qui accélère considérablement. Vous avez des élèves, il leur suffira juste d'écouter, d'observer pour apprendre. Il y en a d'autres, il faudra qu'ils refassent le jeu de rôle 5 fois avant de l'intégrer. Ça, c'est toutes les différences entre les jeunes. Et puis, vous avez les projets coopératifs. Les compétences psychosociales ne s'acquièrent pas uniquement que face à de la contrainte, de l'incertitude, des risques. Elles se construisent aussi dans les situations de création et de coopération. Dès lors qu'on place les élèves en situation de faire avec, de faire ensemble, de coopérer et de créer, encore plus si on les envoie à l'étranger, par exemple, dans un environnement nouveau où il faut parler une langue étrangère, là, ça accélère considérablement. On s'est rendu compte, en lycée professionnel, que quand les PFMP ont lieu à l'étranger, les élèves sont extrêmement enrichis. Ça développe de manière considérable les compétences psychosociales. Moi, j'ai pu observer sur mes filles, par exemple, que lorsqu'elles ont commencé, elles ont fait des études à un moment donné où ça a basculé dans l'alternance, en master ou en école d'ingénieur. À partir du moment qu'elles ont commencé à travailler en entreprise, il y a eu une accélération des compétences psychosociales, mais aussi de la motivation intrinsèque. Ça, c'est ce qu'on observe chez beaucoup de jeunes. Alors, vous avez tous entendu parler du kit empathique, qui est articulé à 16 compétences psychosociales. Dans le référentiel de Santé publique France, hein, vous avez tous entendu parler de ce référentiel, il y a 21 compétences psychosociales, des compétences cognitives, émotionnelles et sociales. Sociales, ça veut dire relationnelles, dans lequel on retrouve, avec des termes un petit peu différents, les compétences du kit empathie. L'empathie est une compétence complexe qui est interdépendante avec beaucoup d'autres compétences. Pour être en empathie, ben, faut être capable de nommer les émotions, de savoir les exprimer, les réguler, de pouvoir écouter l'autre, résoudre des problèmes. Il y a beaucoup de compétences associées. Et les compétences psychosociales sont des compétences qui ont des caractéristiques propres. On met du temps à les acquérir, elles sont interdépendantes, on n'a jamais fini de les acquérir. Elles sont difficiles à évaluer. Alors voilà la définition de Santé publique France, qui est utilisée depuis 2022, elle a été élaborée en 2021. C'est une compétence qui est définie de manière un petit peu complexe, j'en conviens, hein. Ensemble cohérent et interrelié, hein. De capacités qui sont éminemment psychologiques, mais qui sont dans 3 champs, cognitives, émotionnelles et sociales, ça veut dire relationnelles, qui impliquent des connaissances, des processus intrapsychiques. Et vous voyez, dans la définition, après, on précise les enjeux. Elles servent, elles renforcent le pouvoir d'agir. Elles maintiennent un état de bien-être, elles favorisent un fonctionnement individuel optimal et développent des interactions constructives. Les chercheurs de Santé publique France qui qui ont défini ces compétences-là, ont voulu mettre les enjeux dans les définitions pour montrer l'impact. Mais c'est intéressant de reprendre la définition de 1993, elle a 31 ans, cette définition, parce qu'au départ, on nous dit très bien, les compétences psychosociales sont la capacité d'une personne à répondre avec efficacité, et lisez bien, aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Ça nous dit qu'à l'école, les élèves, ils apprennent deux choses principales. Ils apprennent à développer des compétences cognitives et des compétences comportementales. Cognitives et comportementales. Eh bien, les compétences psychosociales aident à répondre aux exigences et aux épreuves quu'on retrouve quand on acquiert ces compétences-là. À l'école, quand on construit ces compétences, on a à faire face à des exigences et aux épreuves. Et donc, et là, c'est la conclusion qui est extrêmement intéressante de mon point de vue. Les compétences psychosociales, elles aident à accepter les exigences des profs. Il faut que les professeurs aient des exigences. On ne peut pas fonctionner sans exigences. Et la bienveillance aide, par ça, quand elle est formulée avec un ton positif, on verra tout à l'heure comment. La bienveillance aide à accepter les exigences et les compétences psychosociales que l'on a à l'intérieur de soi, c'est-à-dire la manière dont je vais gérer mes émotions par rapport aux exigences que m'impose un professeur, la manière dont je vais résoudre le problème ou comment je vais m'organiser dans mon travail, comment je vais gérer tout mon émotionnel, gérer la relation avec mes camarades dans le groupe pour faire face aux exigences. Bon, ça va m'aider à accepter les exigences. Donc vous voyez, je le dis parce que j'insiste, c'est pas... Moi, je travaille depuis 7-8 ans sur ces sujets-là, mais je ne le réalise que maintenant, parce que c'est écrit nulle part. C'est pour ça que j'insiste, parce que c'est très important de comprendre que ces CPS, ce n'est pas un objet mou. C'est un objet qui se place dans les interstices des relations humaines et dans tout le rapport aux difficultés que l'on rencontre et qui nous aide à accepter les exigences de la vie, quoi. Et notamment les exigences de la vie scolaire, pas uniquement la vie scolaire, de la vie relationnelle avec les camarades, avec nos amis, etc. Je continue. Là, vous avez une diapo qui vous montre le lien qu'il y a entre le bien-être et les compétences psychosociales. Le bien-être, vous voyez, en haut, la recherche est d'accord pour dire qu'il se développe sur 5 dimensions. Le bien-être, c'est d'abord un bien-être physique. C'est d'abord un bien-être physique. D'abord, notamment quand on est enfant. Parce que si on ne joue pas assez, on bouge pas assez, on n'a pas assez dormi, on ne s'est pas bien alimenté, on n'est pas en état d'apprendre. C'est un bien-être matériel, parce que quand on n'a pas son matériel, on sait ce que c'est, les élèves qui arrivent... Il y a eu une mode à un moment donné chez les collégiens. Ils arrivaient sans le matériel. Je ne sais pas où on en est à ce niveau-là. Je ne les ai pas questionnés, mais je sais qu'il y a encore des jeunes à qui ça arrive. Et puis on a ce bien-être cognitif, social et psychologique. Et bien dans le cognitif, social et psychologique, qui sont trois dimensions centrales du bien-être, on retrouve les trois dimensions des CPS à gauche. Les voilà. En faisant qu'on voit le lien. Les CPS ne vont pas agir sur toutes les dimensions du bien-être, mais vont agir sur 3 des 5 dimensions. Et quel est l'intermédiaire ? Ce sont ces fameux besoins fondamentaux. Regardez les besoins fondamentaux, ils sont eux-mêmes, ils sont dans les 5 dimensions aussi. Les besoins fondamentaux, c'est les besoins physiques. J'ai besoin de dormir, j'ai besoin de manger. C'est vraiment, on le dit, on le formule très bien quand on est jeune. Puis c'est les besoins cognitifs. J'ai besoin que ça ait du sens. Quand le prof me raconte quelque chose qui n'a pas de sens, je ne suis pas motivé. Besoin de sens. J'ai besoin d'être de justice, c'est un besoin cognitif. J'ai besoin d'écoute, c'est plutôt un besoin social, relationnel et psychologique. Alors c'est très interdépendant, hein, ce n'est pas découpé comme ça. Hein. Là, on les découpe pour des raisons d'analyse, mais en fait, c'est des besoins, les trois, là, ils sont très interreliés. On sait, par exemple, ceux qui sont intéressés à la métacognition, on pensait que la métacognition, c'était que cognitif. La métacognition, ça mêle l'émotionnel et le cognitif de manière très intriquée. Ça a été découvert ça, il y a quelques années. Et vous voyez en bas les fameux besoins fondamentaux très importants qui sont multicouleurs parce que multidimensionnels. Ils sont cognitifs, émotionnels, sociaux, parfois même physiques. La sécurité, par exemple, c'est physique la sécurité. C'est psychologique, bien sûr, beaucoup, d'être en relation sécurisante avec un prof. C'est-à-dire, je vais oser lever la main, de me poser des questions parce que le prof me sécurise. Mais c'est aussi une dimension physique, la sécurité. Besoin d'appartenance, de justice, d'estime de soi, de temps, d'autonomie et de sens. Alors, je vous disais, c'est ce qui est écrit en bleu est très important pour comprendre ce que sont les CPS. C'est dans les situations nouvelles, il y en a beaucoup à l'école, hein, imprévues, d'incertitudes, de contraintes, de tensions, de conflits, de coopération, mais aussi, on pourrait rajouter, de création, que se révèlent et sont particulièrement déterminantes ces compétences psychosociales. Parce que c'est tous ces petits critères que vous voyez en bleu, là, qui génèrent du stress et du risque. C'est parce qu'il y a de l'incertitude, de la contrainte, de la tension, du conflit potentiellement, qu'il y a des risques, et que ben, j'ai besoin de ces compétences psychosociales pour les appréhender. Ce n'est pas la capacité à résoudre des équations du second degré qui va m'aider. Elle m'aide un petit peu quand même si le devoir est porté là-dessus. Mais les compétences disciplinaires, elles sont étroitement liées aux compétences psychosociales. Alors en classe, c'est toutes les situations, dans les moments où sont en jeu, ben, le rapport aux difficultés d'apprentissage, à la nouveauté, aux évaluations, etc. Et dans les abords, dans les couloirs, à la cantine, c'est dans les relations avec mes camarades. En dehors de l'école, en tant qu'élève, c'est dans les relations sociales, dans le cadre des devoirs à la maison et beaucoup sur les réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de prises de risques. Donc on retrouve l'idée que ça permet de maintenir un état de bien-être, de gérer son stress, d'exercer son discernement, de résoudre des problèmes. C'est pour ça que je vous ai rappelé en bas, c'est un levier pour l'acceptation des exigences disciplinaires et comportementales. Donc il y a, ça explique ça, pourquoi, alors c'est inconscient chez beaucoup de publics, pourquoi dans le pays, dans toutes les académies, partout en circule, il y a un enthousiasme depuis 2 ou 3 ans sur ces CPS, il y a beaucoup de gens qui sont enthousiastes à l'idée qu'on va développer le bien-être et développer les CPS, mais ils ne savent pas exactement pourquoi, ils ne peuvent pas dire pourquoi. Ils sentent que ben voilà, c'est utile, c'est le problème de beaucoup de choses, mais on ne comprend pas bien exactement comment ça fonctionne, c'est complexe, et paradoxalement, des solutions simples permettent de progresser très vite dans ce champ-là, qui est un champ complexe, parce qu'il n'y a pas la trace. Une compétence disciplinaire, on peut l'évaluer, même au terme des fois d'une série de 3 séances, on l'évalue, elle est acquise, ça y est. L'élève, il sait résoudre une équation du premier degré, il sait... Il y a des compétences qui sont... Certaines sont plus complexes, mais les CPS, ça demande du temps. Voilà le référentiel des compétences psychosociales. Bon, je ne développe pas beaucoup, l'ont déjà vu. Vous avez en bas à droite, en ligne, directement accessible, le document de Santé publique France qui résume toute la littérature scientifique, enfin, une grosse partie de la littérature scientifique sur le sujet. On a quand même des méta-analyses sur plus de 900 000 élèves qui nous montrent, en pays anglo-saxons principalement, que les compétences psychosociales ont de l'impact sur la santé, la réussite scolaire et les relations sociales. Donc voilà le renforcement des CPS. Vous avez les références de... ces 4 méta-analyses internationales qui sont maintenant connues sur l'impact des compétences psychosociales sur la santé, sur la réussite scolaire. Alors il y a un gros impact sur la lutte contre le décrochage, la persévérance, et sur l'estime de soi, et puis sur le bien-être, sur la qualité de vie, la lutte sur le harcèlement, la lutte contre le harcèlement. On sait qu'il y a beaucoup de pays maintenant qui développent des CPS, très, très jeune chez les enfants, pour lutter contre le harcèlement. Deuxième partie du propos, peut-être qu'on peut faire une petite pause là, une pause avec quelques questions, et puis après j'enchaîne sur, si vous avez des questions. Deuxième partie va être beaucoup plus concrète. Est-ce que vous auriez des questions ou des témoignages sur ce qu'on a évoqué, ou des incompréhensions peut-être, un besoin de complément sur ces éléments ? Bon, je vais continuer. Donc, comment accompagner les vulnérabilités, favoriser le bien-être à l'école? Alors d'abord, la vulnérabilité, c'est 2 choses. Hein. C'est être attentif, les repérer, et deuxièmement, les accompagner. On les repère, c'est ce qu'on fait déjà. Hein. Alors vous me direz à quoi ça sert d'appeler ça vulnérabilité. Quand on conceptualise, on entre dans les concepts, on essaie de voir comment ça fonctionne, et on comprend mieux ensuite... pourquoi c'est si important de faire la chose? Parce qu'on l'a conceptualisé, on a compris les enjeux, les facteurs, l'intrication de ce qui se passe dans les process, et du coup on est plus attentif à ça. C'est à ça que ça sert. Parce que là, en fait, je ne fais que mettre en mots ce que des équipes ou des enseignants font parfois depuis des années. Donc être attentif aux signes de découragement, aux représentations négatives, à l'arythmie scolaire, ces enfants qui ont qui donne un manque, des signes de manque de confiance en soi, de timidité, de repli sur soi, d'isolement, de rejet, de mise à l'écart, tous les signes un peu, et c'est beaucoup les changements de comportement qu'il faut surtout repérer, parce que vous avez des enfants qui, par exemple, timidité, des enfants qui sont timides par nature, et qui, par éducation aussi, mais c'est pas forcément de la... ça génère de la vulnérabilité, mais c'est pas forcément une situation passagère. La répétition de comportements perturbateurs, par exemple. Donc ça, c'est de l'attention. Alors, ça suppose quoi? Ça veut dire que on a des GPDS dans tous les collèges et les lycées. Ben, ça veut dire que on va élargir le GPDS à une cellule de veille. Et il y a beaucoup d'établissements qui ont fait cela. C'est plusieurs centaines d'établissements en France, même peut-être plus de 1000 établissements qui ont déjà une cellule de veille. Je sais pas, on ne peut pas quantifier, on n'a pas fait d'enquête. Et ces cellules de veille, on élargit et on intègre, si possible, alors certains font cellules de veille pour les 6e, 5e, puis cellules de veille pour le 4e, 3e, et ils font venir quelques professeurs principaux, parce que le problème du GPDS, par exemple, c'est qu'il n'y a pas les professeurs principaux en principe, si on suit les textes. Or, vouloir être attentif, repérer les élèves en difficulté, s'il n'y a pas les profs principaux, on perd de l'efficacité. Surtout qu'on sait, par exemple, que les psychologues de l'éducation nationale sont présents une demi-journée, voire une journée, et dans les très gros établissements, une journée et demie par semaine, ce qui est trop, très, très peu, on n'en a pas assez. Isolement, rejet, mise à l'écart. Donc, la conscience de la vulnérabilité, c'est un prisme. Ça opère comme un prisme. C'est une conscience qui, quand on la développe, devient un prisme et qui induit, vous voyez, une plus grande sensibilité aux facteurs de risque, une plus grande attention aux situations à risque, une plus grande écoute des besoins fondamentaux. On anticipe mieux les obstacles, on est plus empathique à l'égard des blessures des élèves, on est plus à l'égard des souffrances, on est plus à même de formuler des feedbacks positifs. En fait, ça nous oblige, sur le plan relationnel, à donner le meilleur de nous. Donc c'est pour cela que c'est une culture, hein, cette culture de la vulnérabilité, qu'ont particulièrement les assistantes sociales, par exemple. Culturellement, elles sont très marquées par cette culture de la vulnérabilité. Voilà les besoins fondamentaux, donc avec les différentes dimensions du bien-être, vous voyez. Et je suis très heureux de constater que ça fait longtemps, hein, une quinzaine d'années, que je me bats, je m'en cache pas, hein, contre un modèle trop restrictif. Il faut savoir que 95 ou 98% des chercheurs dans le monde utilisent le modèle de Desi-Ryan. Besoins fondamentaux, c'est besoin de compétences, d'autonomie et de filiation. Vous dites c'est un enseignant, il n'en fait pas grand-chose. Compétences, il comprend, autonomie, les limites, filiation. Donc c'est un modèle qui ne parle pas beaucoup à l'éducation nationale et aux enseignants. Donc il fallait trouver, et moi je suis allé sur le terrain, j'ai fait ça il y a une quinzaine d'années, en interrogeant les enseignants. Ils savent. Si vous interrogez assez longtemps les enseignants, ils vont vous dire quels sont. Car en croisant, vous arrivez à être complet. Et vous les voyez, les besoins fondamentaux. Et moi, j'ai fait les risques, comme l'a fait Maslow, de hiérarchiser, parce qu'effectivement, on commence à le voir. Alors Maslow ne m'avait pas mis tout cela, il s'occupait des besoins fondamentaux dans les entreprises, des ouvriers. Mais le besoin, par exemple, de sécurité, il est en bas parce qu'il est premier. Dans les besoins en bas, c'est alimentation, sommeil, c'est besoin physiologique. Besoin de sécurité est premier. Parce que si un élève, on parle du bien-être, vous mettez en place dans une école ou un collège des espaces agréables, vous mettez des espaces de convivialité, vous mettez en place plein de choses agréables pour créer du bien-être. Si en classe, l'élève il arrive en cours et que le prof est complètement insécurisant, vous pouvez mettre tous les espaces que vous voulez, l'élève il n'ira pas mieux. Hein. Moi, j'ai vu des établissements vétustes, sombres, où les élèves sont très heureux. Alors, je ne dis pas qu'il faut que tous les élèves, les bâtiments soient vétustes. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est premier, c'est la relation. Alors du coup, on a demandé à beaucoup d'élèves, mais pour vous, c'est quoi un prof avec qui vous êtes dans des bonnes relations, vous vous sentez bien pour apprendre, en totale sécurité, et... vous pouvez apprendre facilement, vous êtes bien à l'école. Il y a quoi, c'est comme caractère? Et ils nous disent tous la même chose. C'est un professeur qui est disponible, ouvert, qui s'intéresse à nous, qui répond à nos questions, qui est parfois là en dehors des cours, qui consacre plus de temps, qui nous respecte, qui n'a jamais de parole qui est irrespectueuse à notre égard. Donc on les caractéristiques, on les a. Vous allez les retrouver après dans le diaporama. On les a, les caractéristiques. Et les élèves nous les disent. Et ça, je l'ai découvert il y a une quinzaine d'années en écoutant des entretiens d'enfants décrocheurs qui ont décroché. Ils disent tout ce qui les a blessés, qui les ont conduits à décrocher. On fait la synthèse d'une dizaine d'entretiens de jeunes décrocheurs et on a la réponse, on l'a. Après, on va faire des conférences de consensus, des conférences de ceci, cela, qui vont durer des jours, où on réfléchit sur c'est quoi les faits. Non, il n'y a qu'à écouter les élèves. Il n'y a qu'à écouter les élèves. Évidemment, la recherche permet après de conceptualiser, d'asseoir. Je ne vais pas non plus critiquer. Moi, je suis un ancien universitaire, donc je ne veux pas... Mais attention quand même, on a une problématique au niveau de l'éducation, c'est qu'on a tendance à beaucoup spécifier la recherche, à la spécialiser, et du coup à s'éloigner de choses un peu basiques qui nous font dire que, ben voilà, si on a des profs sécurisants, qui sont attentifs au sentiment d'appartenance, la justice, on sait que c'est le premier besoin à fleur de peau, et c'est le besoin, c'est le seul besoin qui est conscientisé par tous les adolescents. Les élèves qui ont des problèmes de justice sont des élèves qui vont le manifester très rapidement. La justice, c'est par rapport aux évaluations et par rapport aux punitions, sanctions. Donc la question de la justice est première, alors que par exemple le sentiment de sécurité, il y a des élèves qui sont insécures et qui ne sont pas capables de dire pourquoi ils ne vont pas bien. Ils ne sont pas conscients qu'ils sont insécures. Ils ne sont pas conscients que le prof, par l'imprévisibilité de son comportement, est très insécurisant. Ce n'est pas si facile que ça à conceptualiser. Le besoin d'écoute et de dialogue, il y a beaucoup, beaucoup d'élèves qui ne se rendent pas compte qu'ils ont besoin d'écoute et de dialogue. Ils n'en ont pas conscience. Pareil pour l'estime de soi, d'autonomie, c'est des besoins qui sont... C'est compliqué, hein, l'accès aux besoins. Déjà, les émotions, c'est compliqué pour... Dans les niveaux de difficulté des élèves, vous avez trois niveaux. C'est quels sont les faits, qu'est-ce que j'ai fait qui n'est pas bien. Ensuite, c'est quoi mes émotions. Et après, c'est quoi les besoins qui sont signifiés par mes émotions. Les émotions, elles viennent signifier la satisfaction ou l'insatisfaction d'un besoin. Et l'accès aux émotions n'est déjà pas évident quand ils n'ont pas l'habitude. C'est pour ça qu'il faut apprendre des tout-petits, c'est l'objet du kit empathie, très tôt apprendre à tenir compte des émotions d'autrui, pouvoir les parler, apprendre à dire les siennes, tout ça, très tout petit, parce que dans la psychologie humaine, exprimer ses émotions, c'est régulateur du comportement. C'est régulateur. Alors je sais bien que dans la condition masculine, on a appris, nous les hommes, à taire nos émotions. On a appris à s'en accommoder. Pour autant, on sent bien quand même, ça nous est arrivé quand dans notre vie personnelle, on partage une peine, une colère, on est mieux après parce qu'on a partagé notre colère, on est mieux parce qu'on a partagé notre peine. Pour les femmes, c'est plus commun parce que culturellement, c'est plus accepté. Et elles ont cette capacité plus facilement de se réguler aussi. Bon, après, on pourrait rentrer dans d'autres considérations sans être trop dans du sexisme. Il y a des considérations qui sont de cette nature-là quand même, qui sont assez bien renseignées par les littératures. Alors, en face de chacun de ces besoins, vous avez des gestes professionnels qu'on connaît depuis très longtemps, des gestes aussi familiaux, des postures qui aident. C'est à peu près les mêmes, d'ailleurs pas tout à fait, mais à peu près les mêmes. Et vous avez à droite, on sait que les feedbacks positifs, l'empathie, la disponibilité... les signes de confiance, de considération. Un professeur qui est empathique, qui a des disponibilités, qui donne des signes de considération, des signes positifs, donne des feedbacks positifs, un comportement prévisible et cadre bien avec des règles, il va vite avoir des résultats positifs avec ses élèves. Et d'ailleurs, quand on interroge les élèves, ils nous le disent, mais Madame Attel, jamais on n'oserait... parce qu'elle donne le maximum, elle est disponible. Alors, je ne dis pas que c'est comme ça dans toutes les classes, parce qu'il y a quand même des classes, parfois, il y a des sacrés gamins qui vont tellement mal et qu'il faut aussi canaliser. Mais là, c'est des enfants qui vont demander qu'on fasse des entretiens un peu particuliers avec eux pour essayer de leur faire acquérir quelques codes sociaux et réguler leur comportement. Alors, il y a une notion qui a été formalisée par des psychologues il n'y a pas très longtemps, qu'on appelle le tutorat de résilience. C'est une très très belle notion. Beaucoup d'adultes, en fait, sont des tuteurs de résilience sans le savoir. Tous, nous sommes plus ou moins tuteurs de résilience sans en comprendre les mécanismes. Et le tutorat de résilience, il a été très très bien conceptualisé dans les établissements. Vous avez des adultes qui sont vraiment des tuteurs de résilience. Ils permettent à des jeunes d'aller beaucoup mieux parce que ben, ils ont voilà, leurs caractéristiques. C'est des gens qui ont des exigences élevées, avec des objectifs réalistes et qui développent des relations bienveillantes. C'est-à-dire qu'ils arrivent en même temps à être exigeants, mais à avoir des relations vraiment bienveillantes. Et on va voir ce que ça veut dire, une relation bienveillante. C'est pas être gentil. Hein. Qui sont attentifs aux besoins fondamentaux. Ils prennent le temps de connaître les élèves. Ça veut dire qu'ils s'intéressent aux élèves. Ils prennent le temps de les connaître, ils s'intéressent à eux. Ils les aident à connaître leurs forces et leurs aptitudes personnelles. Et ça, c'est très intéressant. Ils leur apprennent à interpréter les situations de manière différente, et on ne le dit pas ici, mais de manière positive, à acquérir une flexibilité mentale. Privilégier les émotions positives. La nature humaine est faite comme ça. Historiquement, pendant des centaines de milliers d'années, l'être humain a dû apprendre à se défendre et à être vigilant par rapport aux dangers. Donc nous avons une tendance naturelle, tous les êtres humains, à stigmatiser, à repérer les risques et les dangers. Et à pas du tout à voir les choses du côté du verre à moitié plein, à voir ce qui est positif. Si vous vous intéressez au sujet, lisez des petits ouvrages sur la gratitude, l'ouvrage de Rebecca Shankland, qui est dans l'Académie de, qui a écrit son ouvrage, elle était dans l'Académie Grenoble, sur le pouvoir de la gratitude. C'est un ouvrage scientifique qui montre comment le fait de cultiver la gratitude augmente énormément l'empowerment. Et bon, c'est pas uniquement à l'école, mais chez les adultes aussi. Faites l'expérience, en des moments où c'est un petit peu difficile, avant de vous endormir, vous vous mettez dans la gratitude. Vous voyez la puissance de cet objet. L'effet, il est immédiat, en quelques secondes. On peut former des enfants très tôt à cela, avec des cahiers de gratitude, avec des... Célestin Freinet, dans les années 20, le faisait. Dans les conseils d'élèves, il demandait aux élèves de remercier les camarades qui avaient fait quelque chose de sympa. Il le faisait, Célestin Freinet, dans les années 20. C'était très apprécié. Alors, les enjeux du bien-être à l'école. Les enjeux... Ben, on retrouve les trois dimensions du bien-être et les trois dimensions des compétences psychosociales. Il y a des enjeux psychologiques et émotionnels. Lorsque les élèves vont bien, ils ont un meilleur rapport au savoir, une implication, une motivation, une meilleure santé mentale, une estime de soi. Il y a des enjeux cognitifs, en termes de persévérance, de goût d'apprendre, de compréhension, de performance. Il y a des enjeux sociaux et relationnels, donc des relations sociales qui sont beaucoup plus harmonieuses. Voilà pour ces enjeux. Donc c'est spiralaire, tout ça c'est mélangé, c'est beaucoup plus complexe, c'est pas découpé. Hein. Tout ça, avec au cœur, comme le précisent beaucoup de chercheurs qui travaillent sur ces sujets-là, le cœur de la psychologie humaine qu'il faut préserver, c'est quand même l'estime de soi. Quand on touche à l'estime de soi, je vous rappelle que l'estime de soi a trois piliers. C'est les trois piliers de l'estime de soi, c'est la confiance en soi, la représentation de soi et l'amour de soi. Et... celui qui a le plus vulgarisé les travaux scientifiques sur l'estime de soi, c'est Christophe André, dans les années 90. C'est ça qui l'a permis de le faire connaître. Et il vient de publier, il y a quelques semaines, un dernier ouvrage où il dit quelque chose de très intéressant. C'est intéressant de le suivre dans son évolution. Il dit, mais l'estime de soi, bon, très bien, a travaillé à faire plein de choses pour renforcer son estime de soi, mais c'est un peu narcissisant. Il n'emploie pas le terme, mais bon, c'est un peu ce qu'il veut dire. Donc l'estime de soi, ça a d'intérêt quand on la stabilise et qu'on la renforce, que pour se mettre au service des autres. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant de se dire que ben, travailler sur les compétences psychosociales, oui, mais au service de la communauté, au service des autres, au service du bien commun, de la solidarité, etc. etc. Alors, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, la relation, c'est quand même, on est dans un des métiers relationnels, et pour, en termes de bien-être, la relation, c'est le premier des leviers. Et dans la relation, s'intéresser, je vous en parlais tout à l'heure. La relation, elle a une partie visible et manifeste qui est la communication. Que ce soit dans la relation privée, publique, professionnelle ou personnelle, on juge la qualité des relations à la manière dont on communique. C'est la communication qui révèle la qualité des relations. Et la communication, vous voyez, elle a trois dimensions. Verbale, les mots qu'on emploie. Non-verbale, c'est les tons, le ton, les postures. Et paraverbale, paraverbal, c'est le ton. Non-verbal, c'est les postures, les mimiques, les signes. Et paraverbal, pour certains chercheurs, c'est induit, c'est inscrit dans le non-verbal, c'est le ton, le volume et le débit de la voix. Or, en éducation, quand on parle avec des élèves, il y a énormément de feedback à dimension évaluative. Il y a une dimension évaluative permanente. En fait, l'évaluation, elle est très, très permanente en classe. Et la dimension paraverbale, le ton, dans cette interaction verbale sur l'évaluation, elle est déterminante. Et ça, c'est au cœur de la bienveillance et de l'éthique. Un enseignant qui est attentif à avoir un ton chaleureux, bienveillant, qui montre qu'il a de l'espoir, qu'il va y arriver, qui croit en l'éducabilité de l'élève, tout ça mélangé dans un ton qui est respectueux, ce qu'on fait quand on est père avec son enfant ou mère avec son enfant, on est, en général, quand on aime son enfant, on est dedans. Eh bien, ça, c'est une communication qui est vraiment bienveillante sur le plan du ton, en tout cas. Et c'est la partie bienveillante de la communication. La communication, c'est beaucoup d'autres choses. C'est des choses non visibles, comme toutes les parties cognitives et émotionnelles, qui ici sont un peu opposées. Alors, en fait, elles sont intriquées, hein, c'est très lié. Et vous avez dedans, ben, il y a plein de choses. Il y a les valeurs, la représentation, les jugements. Il y a beaucoup de choses qui sont sur le plan cognitif présent. Et sur les plans émotionnels, il y a tout le ressenti. Les émotions, c'est plus l'immédiat. Le sentiment, c'est plus ce qui s'installe dans la durée. Alors, la recherche scientifique nous dit quand même des choses très, très intéressantes. Elle nous dit, par exemple, les travaux de John Hattie sur les 900 méta-analyses qu'il a analysées pendant 15 ans avec je sais pas combien de chercheurs. Ils sont arrivés à ce tableau, il faut retenir que les deux premières lignes. Si vous n'arrivez pas à lire, le premier des facteurs de réussite à l'école, au niveau international qu'ils ont trouvé, c'est que c'est le feedback de l'enseignant. La qualité du feedback. Alors, on a auditionné, conseil scientifique, on a auditionné pendant 2 ans, on a travaillé sur ce sujet-là, on a auditionné pas mal de chercheurs, et on s'est rendu compte que ce sont les feedbacks centrés sur la tâche qui sont impactants. Ce n'est pas les feedbacks sur la personne. Les feedbacks sur la personne, ils sont impactants en dehors de la tâche. Quand on dit à un élève avant ou après son travail, c'est bien en l'encourageant, par exemple, ça, c'est impactant, positivement. Par contre, le feedback, quand il est centré sur la tâche, qu'on appelle l'évaluation formative, l'élève, il est en train, on lui dit, mais regarde, relis l'ordre des opérations que tu as utilisées là. Alors, on lui fait un feedback sur la méthode qu'il a utilisée, ça l'impacte positivement. Parce que c'est centré sur la tâche. Surtout si la manière dont je le formule est positive, est respectueuse, etc., etc. Et le deuxième critère, je vous rappelle qu'en termes de statistiques, d'analyse corrélative, c'est quand c'est coefficient supérieur à 0,4 que c'est une corrélation très significative, c'est-à-dire qu'elle n'est pas due au hasard. Le deuxième, c'est la relation de confiance. Les élèves, ils ont énormément besoin de la confiance des adultes. Pendant plusieurs années, ils en avaient terriblement conscience. Jean-Michel Blanquer, en affichant la confiance comme une valeur, on a beaucoup parlé de l'école pour la confiance. Je regrette un petit peu qu'on n'ait pas conceptualisé l'objet, c'est-à-dire qu'on n'ait pas cherché à réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire, comment ça fonctionne. Nous sommes d'ailleurs en ce moment, on a une mission d'inspection générale qui porte sur la confiance et sécurité pour apprendre et pour enseigner. On essaie de faire le point sur ce sujet-là, qui est un très grand et très beau sujet d'ailleurs. Et on apprend beaucoup de choses, notamment ce que je vous disais tout à l'heure, quelles sont les qualités des enseignants qui ont vraiment de l'impact et quelles sont les qualités des équipes. C'est quoi les caractéristiques de ces équipes dans lesquelles il y a un climat de confiance et de sécurité. Enjeu de la qualité des feedbacks. Le feedback, vous voyez comment ça fonctionne. En fait, c'est une situation pédagogique. L'enseignant pose une question, les élèves produisent oralement ou par écrit. Qu'est-ce qu'il en fait l'enseignant de ce que les élèves ont produit? Que fait l'enseignant de ce que les élèves ont produit? Ça, c'est le feedback. Je le dis parce que en fait, c'est une notion qui n'est pas toujours comprise. J'ai même vu des chercheurs avec qui on n'était pas du tout d'accord. Le feedback, c'est vraiment un retour, on s'en appelle un renforcement ou une rétroaction par rapport à une production orale ou écrite. Et le feedback, en général, il est, sur le plan caricatural, il est soit bienveillant ou réactionnel en classe. Quand il est bienveillant, ben, ça soutient, c'est agréable, ça génère du bien-être, ça rassure, c'est sécurisant. Quand il est réactionnel, c'est désagréable, ça déstabilise, ça produit du mal-être. Il y a quand même, vous avez tous entendu parler plus ou moins des travaux de Catherine Guéguin, c'est quand même extraordinaire ce qu'a fait cette femme. Je pense que son ouvrage, paru en 2014, le premier qu'elle a fait, c'est un des 5 plus grands ouvrages pour moi, de mon point de vue, hein, qu'on ait pu produire scientifiquement, parce qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait la synthèse des neurosciences affectives et sociales, et ça dit des choses tellement importantes que je me suis permis en une diapo de le résumer. Elle dit, à travers l'étude de nombreux travaux scientifiques, elle dit que, vous voyez ce qui est en rouge, là, c'est l'amygdale cérébrale qui est l'un des principaux sièges des émotions. Il est complètement opératoire à la naissance. C'est-à-dire que les enfants, à la naissance, les bébés pleurent, parce que c'est la partie du cerveau qui est complètement opératoire, elle est totalement mûre, et ce qui va permettre, par les pleurs, de communiquer avec la mère et le père, et de signifier ce qui est agréable, désagréable, notamment ce qui est désagréable. Et donc cette amygdale cérébrale est parfaitement opératoire, c'est la plaque tournante des émotions, et lorsque l'enfant grandit, par le jeu des interactions sociales, il va développer de nombreuses parties du cortex, et s'il grandit dans un univers où il y a de la violence éducative ordinaire répétée, donc il peut être plein de choses, on va le voir après, mais ça peut être notamment des coups, des blessures, mais aussi ça peut être des injonctions paradoxales, des demandes complètement inadaptées à l'âge de l'enfant, des humiliations, etc. Ça produit beaucoup de choses sur le plan physiologique. On voit à l'imagerie, à résonance magnétique, et on voit aussi au dosage des neurotransmetteurs, à l'analyse structurelle, des liaisons synaptiques dans le cerveau, on voit qu'il y a un sous-développement de nombreuses parties du cerveau. Un jeune qui va grandir toute son enfance et sa adolescence dans un univers de violence, je vous parlais tout à l'heure d'adversité chronique, son cerveau physiologiquement devient beaucoup moins opérationnel que le cerveau d'un enfant, d'un jeune qui grandit dans un univers de bienveillance. Et ça, alors il y a de la plasticité cérébrale dans la nature humaine et dans le cerveau, qui va faire qu'un jeune qui va parfois récupérer un peu de soutien au collège, au lycée, dans un club de loisirs, avec un adulte dans son environnement, mais globalement, lorsque les parents sont là-dedans, il y a un cercle vicieux de la violence. Donc cela donne des jeunes qui, devenus adultes, deviennent des parents violents, et notamment ça donne tous ces jeunes que vous voyez dans les établissements, qui sont très réactifs et qui n'arrivent pas physiologiquement, c'est pas psychologique, c'est physiologique, ils n'arrivent pas à réguler leur amygdale cérébrale dans un temps aussi court que les autres. C'est-à-dire quand quelque chose se passe pas comme ils veulent, pas comme ils voudraient, pas comme ils attendent, pas comme ils voudraient que ça leur fasse plaisir, eh bien, ils vont mettre 5 minutes, 10 minutes, 1 heure à décolérer, à réguler leur amygdale cérébrale. Ils sont sous une emprise, c'est un phénomène d'emprise, mais physiologique. Et ça, cette démonstration-là, à la fin des années 90, c'est une révolution, parce qu'elle permet de comprendre les mécanismes de la violence chez les adultes et comprendre pourquoi on a des criminels, pourquoi on a des gens qui vont être très réactifs, très violents. Et ça représente beaucoup de monde, quand même, dans la société. Et ça vient fonder la légitimité de la justice restaurative aussi. A contrario, lorsque il y a de l'exigence bienveillante, notamment des comportements prosociaux, c'est-à-dire dans la communication, c'est un père ou une mère avec son enfant qui va croiser son regard, lui dit « Regarde, fais attention à cela ». C'est prosocial, on se croise le regard et je mobilise l'attention de mon enfant en lui demandant de suivre mon doigt et mon regard, etc. C'est les premiers comportements très très tôt, dès les premiers mois, qui vont des comportements prosociaux, qui vont montrer. On a eu une très belle conférence il y a 15 jours dans le séminaire national sur les compétences psychosociales qui nous montre que l'enfant, dès les premiers mois, dès l'âge de 3 mois, il a déjà tous les éléments, il a déjà de l'empathie en lui, quoi. Il va tout de suite accepter la peluche à qui on a mimé des scénettes où elle est dans un comportement prosocial. Il va vouloir de cette peluche-là, alors que l'autre qui est mise en scène dans un comportement antisocial, il ne va pas en vouloir. On fait une petite scénette de théâtre, on voit une peluche qui tape qui empêche une autre peluche de s'alimenter. Il ne va pas en vouloir de cette peluche-là, 90 ou 95%. Donc on voit chez un enfant de 2-3 mois, tout petit, quoi. C'est extraordinaire à voir. Donc ça dit des choses rassurantes, que les compétences empathiques se construisent, se renforcent, mais sont déjà dans la nature humaine. Alors cette violence éducative ordinaire, et cette violence pédagogique ordinaire à l'école, c'est surtout une violence verbale. À la maison, ça peut être physique. Il y a encore beaucoup de... même si elle est interdite par la loi du 10 juillet 2019. Attention aux exigences inadaptées, donc en classe, dans toutes les classes où il y a des exigences. On ne fait pas assez de pédagogie différenciée. On est dans de la violence éducative ordinaire. C'est violent. L'élève qui arrive en lycée professionnel, il est tout cabossé, quoi. très souvent, parce que, sauf s'il a choisi vraiment des sections, mais on a, c'est 80-90% des élèves. En éducation prioritaire, on en a beaucoup, voilà, vous connaissez tout ça. La liste, elle est très longue, je vous en ai mis que quelques morceaux, des conséquences néfastes de la violence éducative ordinaire. C'est le mal-être, le stress, l'angoisse, l'absentéisme, les conduites antisociales, les addictions diverses, etc. Là, vous avez cette diapo importante, une synthèse de tous les leviers qui favorisent le bien-être. Il n'y a pas tous les leviers. J'ai mis les principaux, ceux qui sont... donc, je prends un petit peu de distance quand même par rapport à... Vous savez qu'est parue, il y a eu la conférence de comparaison internationale en novembre dernier sur le bien-être. Travaillé pendant des mois, analyse de nombreux travaux scientifiques, elle a duré 3 jours, ils ont fait une synthèse qui est parue il y a 15 jours. Il y a beaucoup, beaucoup de choses que vous retrouvez là, mais il y a aussi beaucoup de choses que je n'ai pas mises, parce que je considère, j'assume complètement, qu'il y a des choses qui sont plus importantes, il y a des priorités. Je l'ai dit en introduction, je vais me permettre de les réaffirmer ici. En classe, par exemple, en haut à gauche, le sens des activités, c'est quand même premier. Un enseignant qui raconte des choses, qui enseigne, et ce qu'il raconte n'a pas beaucoup de sens, il y a du mal-être. Les élèves, ça les met en colère, etc. Le sens des activités est premier. En haut, par exemple, aussi dans le rectangle vert, la qualité de la relation pédagogique, le soutien au comportement positif, c'est très important. Très, très important. Je vous rappelle que le soutien au comportement positif, c'est faire le contraire que de stigmatiser à chaque fois ce qui ne va pas. C'est-à-dire qu'on valorise ce qui est bien, les bons comportements. Et ça, jusqu'en quatrième, ça marche très, très, très bien. Et on sait que ça permet de complètement affaiblir, atténuer les comportements qui sont perturbateurs. Vous retrouvez les feedbacks positifs à gauche, l'exigence bienveillante, la dédramatisation de l'erreur, les évaluations encourageantes. Et en tout ça, ça permet de nourrir, satisfaire les besoins fondamentaux. Et puis vous avez quand même, dans le rectangle vert, les espaces de parole. Vous en avez dans l'Académie Grenoble, des établissements qui ont pris cette initiative de créer des espaces de parole. Depuis la crise sanitaire, il y a énormément d'établissements qui ont créé des espaces de parole. Énormément. Des SAS, des... Et puis à droite, regardez bien, l'activité physique quotidienne. Attention, en France, nous sommes le premier consommateur au monde de produits psychotropes. Vous savez qu'il y a déjà 25 ans de cela, dans The Lancet, était paru... un article qui montrait que l'activité physique est plus puissante que les produits chimiques pour pouvoir réguler son mal-être. Donc l'activité physique quotidienne, et donc c'est très puissant sur le plan hormonal, hein, ça agit sur le plan hormonal. Et l'activité physique quotidienne, je pense que si beaucoup de jeunes, vous savez que là en France, enfin je crois que c'est une donnée même mondiale, les adolescents ont perdu 25% de capacité motrice en 30 ans. Et on sait que nos adolescents manquent énormément d'activité physique. Et voilà. Sur la question du sommeil, on a énormément posé de questions sur ce sujet-là dans ces derniers mois. On demandait à des adolescents à quelle heure vous vous endormez le soir. Des adolescents qui, la majorité s'endorment pas avant minuit le soir et se réveillent le matin à 6h ou 6h30. Donc vous avez un premier sujet dans les... J'ai parlé de la justice, je parlais de sujets importants dans les établissements. Informer les élèves sur l'importance du sommeil. Les travaux de Stéphanie Mazza à l'INSPE de Lyon, qui est professeure d'université spécialisée du sommeil, elle montre très bien la corrélation très significative qu'il y a entre la perte de sommeil et les résultats scolaires. Un élève à qui il manque une heure de sommeil par jour, ses résultats scolaires vont baisser de manière significative. La qualité de la restauration, les espaces lumineux sécurisants, tout ça c'est un peu secondaire quand même. Mais l'information sur le sommeil, qualité de la restauration, activité physique, c'est très important. Et puis en bas, vous avez les ateliers des compétences psychosociales. Attention, on progresse sur ce niveau-là actuellement. On travaille beaucoup, beaucoup sur ce sujet-là actuellement avec différents groupes. Et nous sommes plus, au niveau de l'inspection générale, je me permets de le dire, sur la défendre l'idée qu'il faut développer les compétences psychosociales en classe, dans les enseignements. Certes, on peut faire des compétences psychosociales à côté, dans des ateliers. On sait, la recherche nous dit qu'on en fait minimum 10 heures dans l'année, c'est très efficace. mais c'est quand même beaucoup dans les enseignements. Et je vous rappelle que le Conseil supérieur des programmes travaille à des nouveaux programmes dans lesquels les compétences psychosociales seront intégrées au nouveau programme. Et il y aura 4 piliers au socle: français, maths, culture générale et compétences psychosociales. Futur socle commun. Alors je vais terminer sur le sens de la bienveillance et sur l'éthique. Retenez cette définition, la numéro 2, le sens de la bienveillance. Disposition favorable envers une personne. On pourrait s'arrêter là. Disposition favorable envers une personne. C'est ça la bienveillance. C'est donc une disposition. On n'est pas toujours disposé. On n'est pas toujours bienveillant. Favorable envers l'autre. Donc c'est très relatif. Ça veut dire qu'il faut qu'on sache ce qui est favorable envers l'autre. C'est très subjectif, la bienveillance. Visant à garantir ce qui est bien pour son développement, sa réussite et sa réalisation personnelle, et rajoute Monique Cantos-Permeur, philosophe, sans que ce bien, ce que l'autre considère comme étant bien pour elle, cette personne, ce soit partagé avec l'enseignant. C'est-à-dire que des fois, on va punir un élève parce qu'on considère, après l'avoir averti 3 fois que pousser ses camarades dans les escaliers, ça présente certains risques, donc c'est interdit. Si on l'avertit 3 fois et qu'après on dit c'est la punition, si on le dit gentiment à explication, c'est une démarche bienveillante. Punir, lorsque c'est fait de manière explicite, positive et respectueuse, avec tous les critères qu'on peut avoir, les discussions, le contradictoire, surtout si c'est une sanction, vous avez 6 critères à respecter quand vous êtes chef d'établissement, eh bien c'est bienveillant de le faire, parce que c'est dans l'intérêt de l'autre. Vous voyez, en haut, veille attentive afin de le protéger de ce qui pourrait lui nuire ou de ce qui pourrait nuire à autrui. La bienveillance, elle est tournée vers ce qui est bien pour l'autre et elle est attentive à ce qui pourrait nuire à l'autre. Et j'aime bien la définition de l'EDGESCO, que j'ai encadrée en bleu, parce qu'elle est complète, elle a déjà plus de 10 ans. Ensemble d'attitudes physiques, morales, psycho-affectives et de comportements positifs et constants, de respect, de bons soins, de marques de manifestation, de confiance, d'encouragement et d'aide envers des personnes ou des groupes. Elle est très bien, cette définition. Elle est un peu longue à retenir, mais elle dit plein de choses. On voit la stabilité, la constance. Ça, c'est pas évident. Enseignant, ce qui est difficile, c'est d'être bienveillant de manière positive et constante. Il faut beaucoup, beaucoup apprendre, prendre sur soi de prudence, de patience. Et la patience, vous le savez, c'est la mère de toutes les vertus. Ce n'est pas de la bientraitance, ce n'est pas de la complaisance et ce n'est pas de l'altruisme. L'altruisme, en bas, c'est une sorte de... C'est plus général, c'est une sorte de qualité générale qui n'est pas forcément contextuelle, même qui n'est pas contextuelle. Qu'on observe en contexte, mais qui n'est pas contextuelle. C'est une qualité qu'on a interne. Alors que la bienveillance, elle est nécessairement en situation. La bientraitance, elle est beaucoup plus corporelle. Mais il peut y avoir de la bientraitance psychologique aussi. Donc, si c'est de la bientraitance psychologique, c'est assez proche de la bienveillance. Et la complaisance, non. Dans la complaisance, on s'accommode des goûts, des sentiments, des désirs de l'autre. La complaisance, ce n'est pas de la bienveillance. C'est à l'opposé de la bienveillance. Ce n'est pas bienveillant d'être complaisant. Or, souvent, c'est assimilé. Alors, il y a des principes fondateurs de la bienveillance. Le respect inconditionnel de chaque élève. Tout un programme. Pas facile. C'est Vladimir Yankelevitch, un philosophe français, qui parlait de l'acceptation inconditionnelle de l'autre, l'acceptation inconditionnelle d'autrui. Le respect inconditionnellement positif, c'est une posture rogerienne, Carl Rogers, dans l'écoute rogerienne, l'écoute active, c'est 3 choses, c'est de l'empathie, de la considération positive inconditionnelle, et c'est de la congruence, être soi-même. Très important. Être soi-même, être authentique. Être authentique, c'est une des vertus qu'attendent les nouvelles générations. Même dans vos enseignants, je parle aux chefs d'établissement, aux inspecteurs, les enseignants attendent de nos cadres que nous soyons, ils attendent de nous que nous soyons des personnes congruentes, capables de parler de manière authentique, surtout pas surplombante, pas trop de verticalité. Il y a des moments où il faut prendre une décision, mais ils attendent des relations horizontales. Les nouvelles générations veulent de l'horizontalité. Je pense que c'est une des raisons aussi de la crise de la démocratie. Je pense qu'il y a Il y a une crise des institutions, il y a une crise de la verticalité. Ça, c'est pas forcément facile quand on est aux responsabilités, on a des hautes responsabilités. Il y a un moment donné, il y a des décisions, il faut les prendre. Il faut mettre toutes les formes dans la manière dont on communique. On peut dire que globalement, l'encadrement, les nouvelles générations, ça va des recteurs jusqu'aux inspecteurs, sont dans cette attention-là, mais pas de manière équivalente, parce qu'on a tous notre histoire, mais il y a de plus en plus d'attention à cela. Et pour un chef d'établissement, ce n'est pas facile, parce qu'il y a tellement de charges et de sollicitations que la tendance naturelle à retrouver, à exercer trop de pouvoir et pas être assez dans une autorité saine, constructive, horizontale, peut prendre le pas, des fois. C'est pas simple. Mais cet effort-là participe d'une éthique qu'il faut absolument conjuguer. Un chef qui est apprécié, c'est un chef disponible, ouvert, qui a la porte ouverte, le plus souvent, qui est disponible et à qui on dialogue, qui va organiser la concertation, avoir un pilotage partagé. Alors, toutes ces qualités-là, que vous connaissez, mais qui ne sont pas forcément faciles à mettre en œuvre, notamment quand on sait, dans des équipes, il y a des collègues qui ne sont pas faciles, quoi, qui sont dans des formes de systématisation de l'opposition, etc. Deuxième principe fondateur de la bienveillance, l'acceptation des limites actuelles des compétences. Accepter l'élève là où il en est dans ses limites, accepter l'autre. C'est ça l'éducabilité, c'est accepter l'élève là où il en est et se dire qu'il va pouvoir progresser. Et enfin, c'est la confiance manifestée, c'est la considération positive inconditionnelle. Donc derrière ça, il y a l'éducabilité, qui est une très haute valeur. Alors avec mon collègue Aziz Djellab, nous avions en 2016, voyant que la bienveillance n'était pas bien comprise, publié un ouvrage sur la bienveillance à l'école, et dans lequel j'ai écrit un chapitre sur la bienveillance active que j'ai mise en correspondance avec la bienveillance passive. La bienveillance passive, c'est celle que l'on produit lorsqu'on est surtout, on veille à ne pas blesser, on est dans une bienveillance minimale. On veille à ne pas blesser, pas décourager, mais par exemple, c'est l'enseignant qui a... J'étais dans un collège il y a 15 jours, 560 élèves, 140 nationalités. L'enseignant, il fait quoi dans sa classe quand sur 27 élèves, il a, c'est un collège plus, 25 élèves, il a, 21 nationalités ou 20 nationalités différentes. Il y a des limites à ce qu'on peut demander aux enseignants. Moi, c'est ce que je pense, c'est que je partage l'avis de mon chercheur qui dit que l'hétérogénéité, c'est bon pour les élèves, mais il y a des limites à l'hétérogénéité. Et c'est pas facile. Alors, je sais bien qu'on a des UPF2A, on a plein de possibilités pour des jeunes qui viennent de les... qui est en situation de migration et de pouvoir apprendre le français très rapidement, mais quand même, culturellement, il y a plein de références culturelles qui vont leur mettre des années à acquérir. Ça pose des problèmes. Donc on va avoir des enseignants qui sont dans une bienveillance passive avec certains élèves, parce qu'ils n'arrivent pas à être au service de tous les élèves. Ils ne peuvent pas. On est aux limites de ce qu'on peut demander à un enseignant. Et ça, c'est très important de le comprendre. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas pourquoi il y a tant de mal-être qui se développe, certes, parmi les cadres, mais aussi parmi les enseignants. Ce n'est pas l'unique raison, il y a plein d'autres facteurs, mais ça en fait partie. On demande énormément. C'est un métier devenu extrêmement complexe. Bienveillance active, c'est une bienveillance dans laquelle on va retrouver beaucoup de choses que j'ai dites, vous voyez, en termes d'engagement, de feedback positif, d'exigence adaptée à chaque élève, de présence, de qualité de la présence, de manifestation de l'intérêt pour chacun, surtout pour ceux qu'on a le plus besoin, être capable d'identifier ceux qu'on a le plus besoin. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'engagement et de la qualité des actes. Donc c'est une exigence vis-à-vis de l'élève, la bienveillance, mais c'est beaucoup une exigence vis-à-vis de soi-même. Ça demande énormément d'énergie. Ça demande de prendre soin de soi, en dehors de son métier, de se ressourcer pour pouvoir être dans les meilleures dispositions. Vous avez une chercheuse, je vais terminer là-dessus, sur la bienveillance, qui s'appelle Gwenola Reto, qui a fait sa thèse en 2018 sur le sujet, qui a publié en 2019 un ouvrage dans lequel elle reprend les travaux internationaux sur la bienveillance, et elle dit que c'est manifester de l'intérêt à l'égard des élèves. Je vais rester sur l'intérêt. Je vais vous raconter quelque chose. J'interviens souvent à l'IH2F. Un jour, je vais à l'IH2F à Poitiers. Je venais pour faire une conférence sur les vulnérabilités, puis dans le taxi, il y avait une une femme à côté de moi, on discute, elle a voulu intervenir aussi. Puis elle me dit, mais je disais pourquoi je venais, elle me dit, mais moi j'ai fait ma thèse de doctorat sur la vulnérabilité. Ah, je lui dis, très bien, c'est super intéressant. On a créé un séminaire national, on va pouvoir vous inviter. Puis je la recontacte beaucoup plus tard, je crois que c'est un an et demi plus tard, et on l'invite. Et là, elle nous fait une conférence. Cette femme, elle est chercheuse, sociologue, elle a travaillé sur la vulnérabilité avec une équipe des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans. Et elle nous fait une démonstration en 40 minutes. Cette conférence, elle est en ligne sur le magistère sur la vulnérabilité, pour nous montrer qu'est-ce qui permet à un jeune de garder la tête hors de l'eau, de s'en sortir dans sa vie. Elle utilise des verbatims, des témoignages de plein de jeunes qu'elle a mis en correspondance. Et les jeunes racontent, je m'en suis sorti parce qu'il y avait une personne dans mon environnement qui s'est intéressée à ce que je vivais personnellement. Manifester de l'intérêt à l'égard des élèves. S'il y a une idée à retenir ce matin, la plus puissante, c'est celle-ci. Construisez des projets d'établissement autour de ça, pour que vos équipes s'intéressent aux élèves. Ça bascule à 180 degrés chez certaines personnes. Ils vont découvrir que les élèves sont beaucoup plus attachants, plus intéressants. Et c'est une autre relation qui se met en place. Et en plus, ça retentit sur les élèves et sur les professeurs, qui ont la relation est beaucoup plus intéressante. On se réconcilie avec certains élèves. S'intéresser aux élèves. Manifester son souci des élèves, ne pas s'appuyer sur des évaluations normées. Alors ça, c'est très américain, manifester de la compréhension et la compassion par rapport aux difficultés. En France, on n'est pas trop là-dedans, c'est très anglo-saxon, mais les élèves viennent manifester qu'ils veulent que les adultes souffrent avec eux. Compatir, c'est souffrir avec. Qu'ils voudraient que les adultes donnent des signes, qu'ils comprennent. Donc, ils souffrent avec eux. Ouais. Je vous ai montré déjà cette diapo. Alors, je vais terminer mon intervention sur l'éthique. Pour vous faire comprendre une chose, je travaille beaucoup sur ce sujet-là depuis une quinzaine d'années, j'ai beaucoup publié. Et ce qui m'a beaucoup marqué il y a quelques années, c'est que de découvrir que sur le plan étymologique, l'éthique, c'est très proche de la bienveillance. Donc vous connaissez la morale, c'est l'ensemble des règles de bonne conduite, ce qui est bien ou pas bien de faire, la morale. Éthos, l'éthique, disposition de l'âme, de l'esprit, manière d'être ou d'habitude. Et en fait, vous avez en France un grand spécialiste de l'éthique, pour moi en éducation, c'est Éric Préra, c'est le spécialiste de l'éthique. Et il dit que l'éthique interroge la morale et les devoirs de l'acteur envers autrui. En fait, dès qu'on est animé de questions morales, dès qu'on interroge la morale, on est dans l'éthique. Dès qu'on interroge sur ce qui est bien ou pas bien de faire, dès qu'on veille à ce qui est bien ou pas bien, on est dans l'éthique. Donc quand on est dans la bienveillance, on est dans l'éthique. Mais l'éthique dit autre chose. Elle dit que c'est une réflexion morale. En fait, dès qu'on convoque une réflexion morale qui peut durer quelques microsecondes dans une interaction ou dans un conseil des disciplines, là, ça peut durer quelques minutes, on est dans une démarche éthique. Surtout si on s'interroge sur ce qui est, si c'est bien ou pas bien pour l'élève ou pour son groupe. Dès qu'on cherche à distinguer le bon et le mauvais, et qu'on se soucie de ce qui est bon pour autrui. Donc les chercheurs ne sont pas d'accord pour dire est-ce que c'est une délibération, est-ce que c'est une posture, une attitude, peu importe. On parle de cet espace de délibération qu'on ouvre. Et donc du coup, vous comprenez bien que dès qu'on quitte la routine, dès qu'une équipe, un chef d'établissement, un professeur sort de ses routines et s'interroge, est-ce qu'il est bon ou pas que je prenne cette décision, que j'adopte ce comportement, ou que j'intervienne, par exemple. Les sciences de l'éducation sont des sciences de l'intervention. Quand vous interrogez est-ce qu'il est bon ou pas que j'intervienne, vous êtes dans une démarche éthique, même si, au terme de cette délibération, vous vous dites « je ne vais pas intervenir, je vais laisser faire ». C'est un choix éthique. Le fait de s'interroger est une démarche éthique. Donc l'éthique ne donne pas la réponse. L'éthique, c'est cet espace dans lequel on délibère. Alors pourquoi ça sert à quoi ? Ben, on va voir à quoi ça sert. C'est là que les philosophes moralistes sont très puissants. Parce qu'il y a une question au cœur de tous les métiers de l'éducation. C'est qu'est-il juste que je fasse de bien pour l'autre ? Qu'on soit chef, qu'on soit infirmière, qu'on soit enseignant, on est il y a un moment donné, on se pose forcément cette question-là. C'est quoi la décision la plus juste ou l'action la plus juste? Même quand on est Yad Vashem, on a beaucoup ce type de questionnement. C'est quoi la décision la plus juste par rapport à cette personne? Eh bien, les philosophes moralistes nous donnent une boussole. Ils nous disent qu'il y a trois directions en philosophie morale pour s'orienter. La première, qui doit être le réflexe de tout cadre, c'est que dit le droit, quels sont nos devoirs? C'est la déontologie. On connaît les deux grands textes, je ne vais pas faire un cours de déontologie, les deux grands textes, je vous rappelle, il n'y a pas de charte de déontologie dans l'éducation nationale. Il y a que pour les inspecteurs généraux, il y en a une, mais pour aucun autre corps. On a une charte de déontologie. Moi, je pense qu'il devrait y en avoir une pour les profs et les chefs d'établissement, parce que c'est les métiers où il y a tellement d'enjeux, il devrait y en avoir. Mais bon, c'est mon point de vue, Eric Préra est d'accord. Bon, ça, c'est la déontologie. Premier réflexe, la déontologie. Que disent les textes? Parce qu'effectivement, si vous êtes cadre, on va vous reprocher de ne pas avoir respecté les textes. Mais vous avez des situations où, pour le bien-être de l'élève, et par bienveillance notamment, vous allez anticiper les conséquences de votre décision. Cet élève qui est battu par son père, il a commis quelque chose de grave, vous devriez le sanctionner. Et donc, appeler les parents. Sanction, appel des parents. Vous n'appliquez pas les textes, vous n'appliquez pas les textes parce que vous savez qu'il est battu par son père. Et donc, vous allez être dans une anticipation des conséquences, qu'on appelle le conséquentialisme si on n'est que là-dedans. Et vous n'allez pas appeler le père, vous allez régler ça qu'avec ce jeune parce que vous considérez que déontologiquement, ce ne serait pas une bonne chose. Donc, vous êtes dans le conséquentialisme. Et puis, la troisième orientation que donnent les philosophes moralistes, ce sont les vertus, ce qu'on retrouve dans beaucoup d'acteurs, chez tous les acteurs de l'éducation nationale, plus ou moins. Ce sont toutes ces vertus que vous convoquez, donc l'attention à l'autre, l'écoute empathique, la bienveillance, la prudence. La prudence qui est... On n'est jamais prudent par hasard. Quelqu'un qui est prudent... ou quelqu'un qui est patient, je ne l'ai pas indiqué la patience, mais la patience, c'est la mère de toutes les vertus. La patience, pour être patient, il faut être très fort. Parce que c'est dans les moments les plus difficiles que la patience est très puissante. Et d'ailleurs, j'en rediscutais il y a 15 jours avec des élèves qui me disaient « Mais Madame Intel, elle est d'une patience. » Ils avaient conscience que l'effort que faisait l'enseignant, que jamais on se serait permis, parce qu'elle est patiente. La confiance, le discernement, il y en a d'autres des vertus. Le secret dans l'éducation, il est là, à droite. Il est beaucoup dans ces vertus-là, c'est elles qu'il faut cultiver. Donc du coup, vous comprenez bien qu'il y a presque une dimension un peu spirituelle laïque derrière ces vertus. Parce qu'on n'a jamais fini de les apprendre et les acquérir, c'est une philosophie de vie. Hein. On peut très bien se dire, en tant qu'cadre, mais aussi en tant qu'enseignant, et si toute relation que je vis au quotidien, je la considérais ou je l'ai considérée comme l'occasion de faire l'expérience du meilleur de qui je suis, donc en convoquant ces vertus-là. Et si toute occasion de relation, je les vivais comme l'occasion de faire l'expérience du meilleur de qui je suis. Ça devient donc un espace éthique. Je ne fais plus les choses par automaticité, ce qu'on appelle par heuristique, c'est-à-dire les automatismes de pensée, par routine. Toute situation, je la vis comme une situation où je vais essayer d'être le plus bienveillant, le plus éthique. Et ça, c'est ce que font quand même beaucoup de cadres et ce que je trouve finalement dans les métiers d'encadrement passionnant. Parce que du coup, l'exemplarité devient puissante parce qu'elle permet d'impacter les autres. Et on le sait, les chefs d'établissement, les inspecteurs qui ont l'impact, ils incarnent les compétences psychosociales, ils incarnent ces vertus-là, ils incarnent cette exemplarité et qui fait que ce sont des modèles d'humanité, d'exigence aussi, c'est d'être rigoureux, etc. On retrouve cela. On interroge les enseignants, ils vont vous dire cela. Alors, moi, je me suis permis, modestement, d'ajouter une quatrième orientation, parce que à l'éducation, nous avons... Ça, c'est un cadre général pour la société. Mais en éducation, comme dans les métiers du soin, d'ailleurs, on a des personnes qui vont mal. Des jeunes qui vont mal et des collègues qui vont mal. Et là, quand des personnes vont mal, il faut savoir prendre soin. Un chef d'établissement, c'est dans les moments difficiles qu'on voit nos compétences. Ce n'est pas quand tout va bien. Et un chef d'établissement, un inspecteur qui est face à un collègue qui va mal, va prendre le soin de prendre des nouvelles, d'aller à la rencontre, notamment de ses besoins fondamentaux à ce moment-là. Il va être dans le CARE, les travaux de Carol Gilligan dans les années 80. Alors c'est très proche du vertuisme. C'est très proche, ça même en fait partie. Mais je pense qu'il faut le distinguer parce que on voit, il y a des moments où on va lâcher sur certains élèves parce qu'ils traversent une période de tellement grande vulnérabilité ou sur certains collègues qu'on va leur conseiller de prendre du repos. Et voilà, on va être dans le soin. C'est ça aussi. Conseiller de prendre du repos ou signaler qu'un élève est dans un état psychique tel qu'il faut qu'il aille voir un thérapeute, c'est prendre soin. Voilà, donc vous savez que l'éthique, on la retrouve dans les textes. Hein, donc il y a des mots qui montrent que dans... d'ailleurs, c'était dans l'intitulé de la compétence numéro 6 du référentiel de compétences. Mais attention, c'est dans les verbes que l'éthique se situe. C'est dans la manière d'accorder, la manière d'éviter, la manière de se mobiliser, la manière d'assurer, d'identifier, de respecter. C'est dans la manière que se trouve l'éthique. Parce que, effectivement, c'est la dernière diapo, l'éthique, c'est un art. C'est l'art et la manière, c'est comme la bienveillance, de communiquer avec tact, justice et sollicitude, pour reprendre ce que Eric Préra considère, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais comme les trois priorités de l'éthique dans la relation, je pense qu'il y en a d'autres. C'est l'art et la manière de renforcer positivement la situation d'un élève, d'exprimer sa considération, sa confiance, de prendre le temps, d'accompagner positivement, de ne pas juger la personne, mais de ne juger que les actes ou les propos, de se rendre disponible, de s'engager en étant présent et d'exiger le meilleur tout en étant bienveillant. C'est un art et c'est la recherche d'un équilibre permanent. Voilà, merci de votre écoute, de votre attention.